Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Patrick Goffman, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 octobre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Oui, c'est Patrick Goffman au micro qui lance le cri de guerre de Serge de Bekech. Et donc, les auditeurs l'ont compris, la canicule est bien finie maintenant et le gouvernement va certainement découvrir prochainement qu'après la canicule, aux surprises, ce sont les frimas et on va nous passer une loi contre le froid certainement et prendre des mesures peut-être improvisées mais très efficaces comme toujours dans ces cas-là. Alors, je le confirme, notre ami Serge est victime d'une espèce de super grippe, de super fièvre. Il n'est pas la seule victime.
Voici venir le froid tueur de pauvres gens. Voilà. Cramponnez-vous, Serge.
Oui, nous parlons de résistance. Alors donc, c'est d'abord à notre ami Serge que nous disons de résister au virus ou aux microbes là, qui l'ont étendu les quatre fers en l'air. Nous parlons de résistance et ça n'est vraiment pas dans la maison d'un pendu puisque nous allons parler dans quelques instants avec notre ami Roger Olindre qui fut résistant à l'âge de 15 ans. Ne nous quittez pas, restez avec nous même si Serge de Bekech est absent parce que nous avons un programme riche et intéressant. En deuxième partie d'émission, après 19h30, nous recevrons l'écrivain Thierry Marignac qui publie Fuyard. Qui vient de publier Fuyard, un polar qui se passe en Russie. Nous recevrons Nicolas Tandler, que beaucoup de nos auditeurs connaissent, journaliste et syndicaliste. Nous recevrons le docteur Dor. Nous recevrons Arnaud de Villoutray pour nous parler de la réunion prochaine des royalistes à Villepreux. Et d'ores et déjà sont présents dans le studio. Et nous allons les recevoir dans cet ordre. Emmanuel Ratier, qui va nous parler d'un projet, nous présenter un projet de club. Madame Philippine David, infirmière qui rentre de Palestine et qui a vu beaucoup de choses intéressantes là-bas. Nous aurons au téléphone également Philippe Luit, bibliothécaire de la bibliothèque Jeanne d'Arc que nous connaissons bien et que nous aimons bien. Alors, dans quelques minutes, nous aurons, je l'espère, Roger Olindre au téléphone. D'ici là, les auditeurs imaginent ma détresse, contraint de remplacer pendant 3 heures au pied levé quelqu'un du talent et de la personnalité de Serge de Bekech. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais peut-être, puisqu'après tout, je l'ai payé avec mes impôts. Qu'en pensez-vous, Victoria, appliquer le plan de communication de Monsieur Raffarin? C'est l'AFP qui a mis la main dessus. Il y a beaucoup de... L'AFP sort beaucoup de scoops en ce moment. C'est curieux. Par exemple, la semaine dernière, elle a intercepté une lettre. Je précise, je rappelle que l'AFP, c'est l'agence France Presse. C'est l'agence officielle... C'est une agence quasiment gouvernementale et elle sort des scoops extraordinaires. Donc la semaine dernière, c'était cette lettre de Sarkozy au maire gauchiste de Versailles au sujet de cet imposteur tunisien qui prétendait 2 ans après avoir sauvé la vie de Jacques Chirac lors de l'attentat du 14 juillet. Sarkozy l'a envoyé promener en lui disant que ça n'était qu'un mensonge de plus de ce monsieur. Tant pis pour monsieur Pinte et tant pis pour cet imposteur. Et puis cette semaine, donc l'AFP publie le plan de communication de M. Raffarin, alors j'aime autant vous dire que ça n'est pas donné, que les contribuables payent sa chère. Et qu'est-ce qu'ils payent? Le conseil de communiquer en bon père de famille, pragmatique, je cite, bon père de famille, pragmatique et proche, lucide et courageux, simple, direct et concret, et pratiquant à parler vrai. Bon, ben, je devrais pas avoir trop de mal à appliquer ce plan de communication, c'est tout mon portrait, il me semble, et tout, c'est tout le portrait de Serge de Becketch que je viens de faire. C'est peut-être aussi celui de Roger Olyndre. Allô, Roger?
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonsoir, Roger Olyndre. Alors, je ne vous laisse pas respirer, puisque vous n'êtes pas encore frappé par aucun virus.
Non, je ne pense pas, non.
Et je vous saute donc à la gorge tout de suite en tant que responsable de premier plan du Front National. Vous êtes numéro 2, 3 ou 4. Pour vous interroger sur sur les prochaines régionales. Alors je lis, j'ai sous les yeux le numéro de minute qui est arrivé aujourd'hui dans les kiosques et le grand entretien que vous avez avec eux. Et si vous voulez bien, on va le reprendre là où minute le laisse, à savoir donc ces élections, parce que vous avez vu comme moi la semaine dernière, Roger Olyndre, vous avez vu que Libération au début de la semaine dernière et Le Monde, à la fin de la semaine dernière, donc personne ne peut croire qu'ils se sont concertés, ont fait leur une et même des affichettes sur le danger FN au régional. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que s'ils continuent comme ça, le danger est réel. Mais de toute façon, ce qui est incontestable, et ils ont oublié de le dire, c'est que tout ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons dit, ça a été contre ça que nous avons combattu pendant 20-30 ans. Ça fait 30 ans qu'on dit ce qui va arriver. Et pour une fois de plus, nous avons eu raison et Le Pen avait raison.
Vous êtes d'ailleurs candidat vous-même en Seine-Saint-Denis?
Oui, je suis tête de liste en Seine-Saint-Denis où je milite depuis des années. J'ai été conseiller régional de Seine-Saint-Denis, j'ai été député de Seine-Saint-Denis, conseiller régional de Seine-Saint-Denis et conseiller municipal à Sevran.
On a déjà noté avec c'est une divine surprise que les sondages promettaient 33% à votre liste conduite dans l'Île-de-France par Marine Le Pen. Oui. 33% en Seine-et-Marne, ça vous paraît vraisemblable? Et vous-même, qu'est-ce que les sondages vous accordent dans le 9-3?
Je n'ai pas vu les sondages ces jours-ci parce que je suis au château depuis 8 jours parce qu'on prépare ce monument aux morts que l'on construit nous-mêmes, qui est un remarquable monument aux morts. Alors je n'ai pas suivi la politique parisienne de la région depuis quelque temps, mais je rentre sur Paris lundi, mardi. Mais je pense que nous allons faire un bon score, étant donné que nous avons toujours fait de bons scores dans ce secteur où nous avons été les seuls à annoncer la vérité, à dire la vérité. Voilà.
Alors, si nous continuons à nous concentrer au sujet de ces régionales sur l'Île-de-France, et bon, nos amis de PACA et des autres régions, nous le pardonnons. Est-ce que ce danger FN, est-ce que vous ne pensez pas que Libération, Le Monde et les gens qui les inspirent, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils exagèrent ou qu'ils feignent complètement leur inquiétude?
Ah, ça peut être une position politique qu'ils ont déjà utilisée, c'est-à-dire crier au loup, quoi, crier au loup. Bon, enfin, à force de crier au loup, plus personne ne croit au loup, quoi.
Même pas vous, le loup.
Non, je crois qu'ils en ont trop refait, qu'ils en ont trop remis. Je crois que le deuxième tour des dernières élections présidentielles a été un tel accablement pour la nation, un tel déluge de bobards, de baratins, que là, quand même, ils avaient fait fort et ils ne peuvent pas refaire ce cinéma, quoi.
Alors, une dernière question avant de repartir à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher. Une dernière question au sujet de ces élections. Est-ce que vous ne croyez pas que le véritable motif de véritable inquiétude pour les listes du Parti Socialiste et de l'UMP, c'est surtout la faiblesse des candidats? Je vais vous raconter, si vous ne le savez pas encore, que M. Copé s'est rendu à Puteaux la semaine dernière pour le lancement de sa campagne et il bénéficiait du patronage et de la présence réelle de M. Sarkozy, ce qui est bien naturel puisque c'est M. Sarkozy qui a refusé d'affronter Marine Le Pen et le Front National et qui a envoyé M. Copé à l'abattoir électoral. Et ça s'est très mal passé parce que le maire du coin, M. Secaldireno, peut-être parce qu'il a des ennuis avec la police, était tout sucre et tout miel avec M. Sarkozy et M. Monsieur Sarkozy lui-même a fini par faire sa propre apologie, et Monsieur Copé était dans un coin, et finalement, c'était supposé être le lancement de sa campagne, et il n'a pas eu la parole, on ne l'a pas vu, il est parti furieux. Vous ne croyez pas que ce monsieur Copé, qui est à peu près inconnu, tout comme monsieur Huchon, ce sont eux, leur faiblesse, le véritable motif de véritable inquiétude pour le Monde et Libération?
Ben, je le pense exactement, mais je pense que les gens qui les poussent en avant vont mettre d'énormes moyens financiers. C'est ça le problème. À nous, nous allons nous battre sérieusement, mais eux vont mettre des moyens financiers absolument énormes. Enfin, ça n'empêche pas que je pense, mais vraiment du fond du cœur, qu'ils seront battus. Parce que je crois que cette fois-ci, notre pays, notre pauvre France, est vraiment engagé dans un processus de déstabilisation, de descente vers les enfers. Et je crois que cette fois-ci, il va quand même falloir se battre. Moi, je tiens à dire, d'ailleurs, et je m'adresse là à tous les militants et sympathisants du Front National, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, hein, il n'y a pas que des immigrés qui sont des salauds, des ordures, des voyous et autres. Il y a aussi beaucoup de gens qui en ont marre, qui en ont par-dessus la tête, et qui votent Front National, et qui voteront massivement Front National, parce que beaucoup servent la France, ont servi la France comme anciens combattants, ou certains font de leur famille des familles françaises, et en ont marre de tout ce cinéma. Mais je le sens, je le vois, parce qu'ils me le disent. Je vais sur les marchés, je vais un peu partout, à Sevran et ailleurs. Les gens me disent, mais on en a marre. Hein, monsieur le député, m'appelle toujours monsieur le député, hein, je dis pas rien. Hein, monsieur le député, on en a marre, et on va voter Le Pen.
Vous disent beaucoup d'immigrés. Oui. Alors peut-être que vous en aurez, et certainement même que vous en aurez, donc samedi prochain, 25 octobre, à Neuvy-sur-Barangeon, vous pouvez, il nous reste 2 minutes, là vous pouvez dire quel est le programme de cette fête. Donc à Neuvy, c'est à côté, c'est près de Bourges, près de Nevers, pour les amis qui nous écoutent par là.
À côté de Vierzon, hein. Pas loin de Salbris, entre Salbris, Vierzon et Bourges.
Et bon. Puis c'est quoi, 2 heures d'autoroute de Paris?
C'est 2 heures et quart d'autoroute, oui. Alors là, ça commencera à 10h par une messe pour les paras qui ont été assassinés au Drakkar, au Liban, en 1983. À 12h, il y a l'envoi des couleurs devant le château. À 13h, un grand méchoui à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va amener plusieurs moutons. Les gens auront des couteaux, taperont dans le mouton, comme on le faisait au tout grand temps des méchouis de l'Algérie française. Hein. Et il y a un laps de temps pour déjeuner, pour casser la croûte, donc pour boire un bon coup, pour boire le café. Et à 16h, il y a une grande cérémonie patriotique pour l'inauguration d'un monument aux morts qui porte une plaque qui est certainement la seule plaque en France, hein, qui dit à tous les combattants de l'armée française de toute race et de toute religion, trahis par ceux qui les avaient envoyés au combat. Alors je pense que nous aurons aussi un certain nombre de représentants de Harkis. Ensuite, il y a la bénédiction du monument par l'aumônier. Il y a la plaque qui est dévoilée, hein, par Six de Bourbon-Parme. Ensuite, l'homélie de l'aumônier, le chant de tradition et des discours patriotiques, avec le final, c'est moi qui parlerai au final.
Et vous ne parlez pas mal, je peux en témoigner. Ben écoutez, Roger Lindre, au moment de vous remercier,
je dire une chose aussi, on a beaucoup de coups de téléphone. Nous avions demandé à ce que les gens réservent pour savoir combien on devait tuer de moutons, parce que bon, on en a tué 8, on a tué tout ce qu'il fallait, mais ça n'est plus la peine de réserver. Les gens qui viennent auront des tickets, pourront prendre leur ticket à l'entrée. Et tout, vin, méchoui, tout compris, nous avons fait des prix assez bas, c'est 15€ par personne.
Vous nous dites que ça n'a plus la peine de téléphoner au CNC pour réserver, j'ai bien compris.
Il faut venir directement et il y aura un stand de vente de tickets à l'entrée du château.
Très bien. Bon, ben, je n'ai plus qu'à vous... deux tickets à 15€, précisons-le pour finir, c'est oui, quand même raisonnable pour un méchoui et pour une si belle journée.
Oui, le vin est compris, hein. Tout est compris, 15€.
Bien.
Voilà. Bon, je tiens à saluer tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Toutes mes amitiés à De Bekech, mes amitiés à toi, mes amitiés à tous les amis, et en avant pour la victoire.
Merci Roger Olindre, à bientôt. Voilà, nous quittons Roger Olindre et nous revenons dans notre studio pour nous tourner du côté de notre vieil ami Emmanuel Ratier. Rédacteur en chef, directeur, Grouillot, secrétaire de rédaction de Faits et Documents, qui vient nous parler de tout autre chose. Bonjour, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Patrick. Effectivement, pour une fois, je viens pas pour donner des informations sur les dessous de la politique française ou de la politique étrangère, mais parce que j'avais un vieux projet depuis une dizaine d'années. J'espère qu'il va voir le jour prochainement. J'en ai parlé avec Serge à plusieurs reprises. Et il m'a très aimablement, comme j'ai un problème matériel, de venir m'en expliquer à votre micro. Donc, pour simplifier, nous avons l'intention, avec un certain nombre d'amis et de personnalités, de collaborateurs, dont je ne citerai pas les noms ici parce que ce n'est pas utile, de monter un bar littéraire. Il y aura trois parties. Il y aura d'une part librairie de livres anciens et d'occasion, un peu dans tous les domaines, mais avec une connotation droitière et nationale, comprenant la littérature, l'histoire, l'aventure, les livres pour la jeunesse. Et je précise bien des livres d'occasion. Il y aura une deuxième partie assurée par un professionnel qui se composera d'encadrement, puisque on peut dire que dans notre milieu, nous sommes assez conservateurs et collectionneurs, et parfois on a quelques difficultés pour trouver quelqu'un susceptible, par exemple, c'est très simple, d'encadrer un portrait de Maurras ou de Jean-Marie Le Pen dédicacé. Donc chez nous, on pourra faire obtenir ce genre de choses à des tarifs intéressants, et nous aurons une partie cadeau, essayant de renouveler ce qu'on voit dans d'autres boutiques, c'est-à-dire, pour être très simple, les figurines militaires ou les cravates à fleurs de lys. Je n'ai rien contre, mais ce sont toujours les mêmes choses qu'on voit, et on va essayer de proposer autre chose. La troisième partie, ça sera un bar, donc en fait une espèce de bouchon avec une restauration très simple, plutôt genre assiette de charcuterie, assiette de fromage et bon vin, parce que je crois qu'il manque un peu d'une espèce de carrefour littéraire où les gens puissent se retrouver en déjeunant en agréable compagnie, mais simplement assez rapidement, et où ils pourront rencontrer réellement les écrivains, les éditeurs, les responsables des journaux de la mouvance que nous animons. Donc ça se passera à midi, et le soir, ça sera fermé pour des problèmes de sécurité et de règles d'hygiène, en fait, etc. Mais ça fonctionnera le soir sous forme de club.
Emmanuel, je vous interromps un instant parce que vous parlez avec une telle conviction et une telle force d'évocation que j'essaie de comprendre si vous parlez d'un projet ou si vous parlez d'un local que vous avez déjà et de quelque chose qui existe déjà plus ou moins.
Oui, alors, donc pour finir, le soir ça sera fermé, mais ça sera ouvert exclusivement sur réservation, notamment pour les associations littéraires ou les petits groupes associatifs qui n'arrivent jamais à avoir un endroit sympathique où se réunir.
Ou alors ça coûte très cher.
Voilà.
Comme à Saint-Germain-des-Prés où on a beaucoup de réunions, mais
donc,
il faut bien dire que c'est
voilà,
cher.
Voilà, et donc je pense qu'il y a un certain nombre de par exemple les comités de rédaction de journaux ou des petites associations, je pense par exemple à des associations pieds noirs ou des associations étudiantes, n'ont jamais d'endroit où être tranquille. Donc c'est ce qu'on leur proposera le soir. Alors, c'est plus qu'un projet puisqu'on a le financement, il y a une société, c'est tout à fait sérieux. On a trouvé les professionnels pour s'en occuper, que ce soit pour l'encadrement, le livre ancien ou la cuisine. La seule chose qui nous manque, c'est le local. Donc nous recherchons à Paris, pas dans des arrondissements quand même trop excentrés, afin de ce qui risquerait de poser des problèmes pour que les gens viennent nous voir, un local entre 50 et 100 mètres carrés à un prix raisonnable. Mais on ne demande pas un prix d'amis. On demande un prix raisonnable et on s'est dit que pour essayer d'échapper au problème des commissions d'agence ou des pas de porte, autant venir à Radio Courtoisie s'en expliquer directement.
Alors c'est une très bonne idée. Je vous propose de donner les coordonnées où on peut, où ceux qui sont intéressés par votre projet, qui veulent y contribuer d'une façon ou d'une autre, peuvent vous contacter. Et je vous propose de vous attarder un quart d'heure ensuite. Parce que je pense que vous allez être intéressé par notre entretien avec Madame David, donc si vous avez encore un quart d'heure. Donc vous donnez vos coordonnées maintenant.
Oui, donc le plus simple c'est de m'appeler au 01 40 16 80 92.
Je répète.
01 40 16 80 92, qui est le numéro de téléphone de Feuilles et Documents, donc les gens qui en ont un exemplaire le connaissent, ou on peut me contacter par internet, il suffit de taper Feuilles et Documents sur un moteur de recherche, on tombe sur mon site, il y a un email et on m'écrit. Voilà.
Bien, je vous remercie Emmanuel d'avoir été aussi précis, aussi optimiste aussi, parce que il me semble que c'est quand même un projet intéressant, sympathique. Avant de nous tourner vers Madame David, retour de Palestine, je me tourne vers Victoria pour lui demander si elle a un message d'auditeur ou une annonce à faire avant que nous ne lancions le bobino de 16e anniversaire de Radio Courtoisie.
Alors, Roger Olyndre a annoncé un méchoui au château, nous dit cette auditrice. C'est bien gentil, mais où et quand?
Alors, où? On ne l'a dit que trois fois, pardonnez-nous.
Ce sera la quatrième, à Neuvy en Barangeon. Ça se tiendra le 25 octobre prochain, à partir de 10h du matin.
Donc Neuvy, c'est dans le Cher, entre Vierzon et Bourges, à 2h de Paris.
Voilà.
Voilà. Une fois qu'on est à Neuvy, on trouve le château très facilement, c'est fléché, tout va bien. Et puis si vraiment on est perdu, on prend son téléphone et on appelle le CNC au 01 40 59 07 66. On a quand même fini par donner le numéro. Alors ce qu'on va donner maintenant, c'est l'annonce du 16e anniversaire de Radio Courtoisie. La régie est prête à lancer cette annonce, alors allons-y.
Le 21 novembre, nous célébrerons le 16e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Vendredi 21 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez dîner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Dodé. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 45 € par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au vendredi 21 novembre à 20h à la Mutualité, pour dîner ensemble et décerner le prix Dodé 2003, 16e anniversaire de Radio Courtoisie.
Nous y serons nombreux et nous y retrouverons peut-être Philippine David. Alors, madame, vous êtes infirmière et vous êtes allée, si j'ai bien compris, exercer votre art en Palestine.
C'est pas tout à fait ça, non. Je suis allée passer 5 semaines en Palestine cet été, dont 3 semaines à Naplouse, chez des amis chrétiens palestiniens et musulmans palestiniens. Donc j'ai vécu leur vie là-bas, dans une ville très particulière, comme vous savez, une vie qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours simple, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai vraiment partagé leur vie pendant 3 semaines.
Alors moi, je n'ai que les gros médias pour m'informer en général sur cette région. Par exemple, quand on me dit que Monsieur Arafat n'a pas pu se rendre à la messe de Noël, je découvre ou je redécouvre, parce que je l'ai oublié, comme peut-être même beaucoup de nos auditeurs, qu'il y a des Arabes chrétiens qui sont nombreux, qui sont très pieux.
Bien sûr, il y a 150 000 chrétiens, dont 115 000 Arabes chrétiens en Israël. Et je peux vous dire que la vie n'est pas très drôle pour eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il y a beaucoup d'Arabes chrétiens et ces Arabes chrétiens ont une foi très forte, heureusement d'ailleurs. Je suis allée aussi à Bethléem. J'ai passé un peu plus d'une journée à Bethléem. J'ai fait un petit tour à Ramallah aussi et je suis allée à Jérusalem également. Mais j'ai vécu, entre guillemets, 3 semaines, à Naplouse.
Et vous me disiez tout à l'heure, que, avant que nous n'entrions dans le studio, que vos déplacements, les déplacements que vous venez d'évoquer, étaient difficiles.
Mais écoutez, oui, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vécu comme eux, exactement comme eux. C'est-à-dire que j'ai pris les transports palestiniens, les bus palestiniens. J'ai été arrêtée comme eux au checkpoint. Par exemple, vous voyez, pour vous donner un exemple, entre Naplouse et Jérusalem, pour faire 70 km, j'ai mis, comme tout le monde, 4 heures, vous voyez, 4 heures, et 4 heures avec 4 arrêts. 4 checkpoints et nous sommes obligés de nous arrêter. Nous allons d'un taxi, par exemple, nous prenons un taxi qui nous emmène à un premier checkpoint. Ensuite, nous descendons, nous trimballons nos valises ou nos sacs jusqu'à un second checkpoint à pied. Ensuite, nous prenons un autre taxi jusqu'à un troisième. Ensuite, un bus. Ensuite, vous voyez. Et puis, pendant la route, nous sommes arrêtés aussi par des barrages volants. Il n'y a pas que des checkpoints, il y a des barrages volants. Et puis, à un certain moment donné, on a demandé que les 25 plus jeunes hommes du bus descendent. Alors nous avons attendu, les 25 plus jeunes hommes du bus sont descendus et nous les avons retrouvés une demi-heure après. Ils sont remontés une demi-heure après.
Après une fouille au corps
Certainement, je ne sais pas, vous savez.
Tout le monde est suspecté de terrorisme, y compris une infirmière française.
Surtout, j'allais dire. Oui, bien sûr. Et ça n'est pas très, très simple parce que... Il y a toujours un petit pincement au cœur. Nous sommes toujours un peu intimidés. Vous voyez, quand on voit des soldats entrer par un côté du bus et par l'autre et commencer à vous demander vos papiers, et lorsqu'ils s'aperçoivent que vous êtes effectivement une petite Française toute seule au milieu d'un bus palestinien, vous avez...
Ils trouvent ça bizarre. Hein.
Oui, vous avez droit à des regards pas tellement très étonnés et pas franchement cordiaux, quoi.
Alors oui, voilà. Alors, d'autant plus que bon, vous avez suivi, je pense, et vous aussi, Emmanuel Ratier, les sorties de la presse israélienne contre Monsieur Chirac, la polémique qui a eu lieu ces jours-ci. Donc je pense qu'on devait vous toiser en tant que Française parce que vous étiez la cible de la France était la cible de la presse israélienne.
C'était en effet tout à fait cela. En revanche, de l'autre côté, je dois dire que Chirac a une cote d'amour tout à fait importante, vous voyez.
Est-ce que tout le monde ne se tromperait pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel, si vous... Est-ce que tout le monde a raison ou tout le monde se trompe? Est-ce que finalement Chirac conduit la France dans le camp arabe ou est-ce que c'est de l'électoralisme ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, les gens sur place, que ça soit moi j'ai l'exemple en Irak où je suis allé pendant l'embargo. La France avait une cote d'amour extraordinaire à cause de l'histoire, à cause du général de Gaulle, à cause d'une espèce de position de non-aligné. Et des gens qui ont relativement peu d'informations, pour eux, Chirac n'a aucune importance, c'est la France qui représente. Donc c'est pas le président Jacques Chirac, UMP en tant que tel, qui est important. Ce que j'ai vu là, c'est que pour le Ramadan, au Caire, les dattes les plus chères cette année, je sais pas si vous avez, c'est les dattes de meilleure qualité, qui valent, je crois, 15 dinars le kilo, ce sont les dattes Chirac. Tous les ans, il y a un nom qui est donné. En deuxième position cette année, vous avez les dattes Yasser Arafat. Et alors, tout en bas du tableau, vous avez la très médiocre, avec de la poussière, ratatinée, vous avez à 1,5 dinar la date Bush, et la dernière, elle est à 1 euro, mais un dinar, je sais pas qui l'achètera, c'est la date Sharon. Et on imagine assez mal, je me disais, voir les gens qui demandent un kilo de date Sharon, alors ils doivent être très très mal vus. Voilà, donc c'est sûr que Chirac a actuellement une grande cote d'amour dans ces pays. Je pense qu'il n'en est pas le seul responsable, notamment parce que Dominique de Villepin, quand même, a fait preuve d'un certain courage.
Oui, il y a la politique française au moment de la crise irakienne en particulier. Alors, Philippine, est-ce que vous avez eu l'impression que les choses allaient empirer, ou est-ce que vous avez... Vous qui avez eu le privilège donc de vivre au sein de la population, est-ce que vous avez vu aussi bien dans le comportement de cette population que dans la situation générale des perspectives d'espoir, ou est-ce qu'il vous a semblé que les choses ne pouvaient qu'empirer, mais jusqu'où?
Alors justement, j'espérais trouver un espoir, hein, du moins un début d'espoir. Eh bien, je vous assure, j'ai été vraiment très très choquée, très très triste de voir que l'espoir est presque mort. La haine est palpable et de part et d'autre, et c'est vraiment c'est absolument dramatique. Vous savez, c'est dramatique. Depuis la seconde intifada, vous savez, c'est un mot qui veut dire secouer ce qui dérange, ce qui gêne, ce qui est trop lourd. C'est ça que ça veut dire, intifada. Et c'est... depuis la seconde intifada, il y a en particulier, entre autres choses, parce que nous pourrions dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, il y a des problèmes économiques absolument dramatiques, absolument dramatiques. Les gens qui travaillaient, les Arabes, qui travaillaient de l'autre côté, enfin des territoires occupés, qui travaillaient en Israël, désormais, ne peuvent pratiquement plus y aller. Ils ne sont plus que quelques milliers, alors qu'auparavant, ils étaient plus de 100 000. Maintenant, il y a un chômage, par exemple, à Naplouse de 60%. À Gaza, n'en parlons pas, c'est 80%. Et il y a presque entre 80 et 90% de personnes à Gaza qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Naplouse, ce n'est pas aussi, aussi crucial, aussi dur qu'à Gaza, mais Naplouse, les gens, j'ai entendu exactement les mêmes réflexions chez les Palestiniens chrétiens, chez mes amis chrétiens ou chez mes amis musulmans. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Notre ville est une prison.
Quand les médias publient, montrent des cartes de la région, on voit deux petits territoires et puis une poussière de minuscules territoires. Alors vous nous dites qu'il faut qu'on circule à 15 à l'heure d'un territoire à l'autre. Effectivement, l'économie, tout le monde sait, tous ceux qui sont allés à l'école savent que l'économie s'est construite sur les moyens de communication. Effectivement,
Je pourrais vous donner beaucoup, beaucoup d'exemples que j'ai vécu, que je connais. Vous savez, je ne vais pas les chercher dans les journaux, dans les bouquins, des exemples d'hommes ou de femmes, de couples qui sont séparés, par exemple, qui ne peuvent pas se retrouver. L'un habite à Gaza, l'autre est en Israël. Ils ne peuvent pas se retrouver. Ça fait peut-être 2 ans, parfois, qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Aussi, des couples, des gens qui, par exemple, j'ai rencontré à Jérusalem un homme de Bethléem qui travaille à Jérusalem, eh bien, il est obligé de rester à Jérusalem pendant la semaine. Je rappelle qu'entre Jérusalem et Bethléem, il y a 10 kilomètres, c'est-à-dire qu'en temps ordinaire, on fait ça vraiment, vous savez, en un quart d'heure. Mais maintenant, Jérusalem-Bethléem, parfois il faut passer dans la montagne parce qu'il y a des checkpoints qui changent parfois d'endroit. Il faut passer dans la montagne, ça fait 2 heures, 3 heures. Quand vous arrivez avec 3 heures de retard à votre travail, ça va bien une fois, mais 2 fois, 3 fois, l'employeur, qui est très souvent d'ailleurs israélien, vous envoie promener. Donc ils n'ont plus de travail. Ils sont vraiment coincés, si vous voulez. C'est absolument dramatique pour eux.
Alors, on a l'impression, en vous écoutant, que les Palestiniens et les Israéliens ne peuvent pas vivre ensemble, mais qu'ils ne peuvent pas vivre séparément non plus, parce qu'ils sont quand même interdépendants d'un point de vue économique. Le drame, comme pour nous rappeler encore plus le drame de l'Allemagne coupée en deux pendant 50 ans, on en est maintenant à construire un mur.
Alors là,
vous avez vu ce chantier?
Oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu partout. Mais
alors, où passe-t-il ce mur? Est-ce que vous pouvez le rappeler?
Alors justement, ce mur devrait théoriquement suivre la ligne verte, c'est-à-dire les frontières de 49, mais il ne la suit pas, la ligne verte. Il arrive à certains endroits qu'il entre, entre guillemets, de 10 kilomètres à l'intérieur des terres bien sûr palestiniennes, si vous voulez. Ce qui fait que ce mur, qui est 2 fois plus haut que le mur de Berlin, qui fait 8 mètres de haut, ce sont d'énormes blocs de béton en forme de A.
Et le BTP a fait des progrès depuis Berlin.
Qui sont reliés avec des espèces d'agrafes de ferraille, et qui, il y a il n'a pas partout tout à fait la même allure d'ailleurs. Il y a des rouleaux de barbelés, il y a aussi des fossés. Il devrait y avoir, s'il se termine, il devrait faire plus de 600 kilomètres, et s'il se termine, il devrait y avoir une tour de guet, si vous voulez, tous les 300 mètres.
On peut dire un mirador, non? Non, j'ai dit une bêtise.
On peut le dire.
On ne va pas le répéter.
Et donc, c'est quelque chose d'absolument inouï, parce que, par exemple, je peux vous donner des chiffres comme ça que l'on m'a donné là-bas, et que m'ont donné des amis, attention, des amis juifs, je dis bien, parce que je n'ai pas que des amis palestiniens, j'ai aussi des amis juifs.
Et c'est jamais... Oui, on s'en doute, vous parlez sur un ton très mesuré, très objectif.
Oui, ils m'ont donné des chiffres. Par exemple, depuis ce mur a commencé à être construit, il y a eu environ entre 103 et 110 000 oliviers arrachés, parce que ce n'est n'est pas seulement une catastrophe humaine.
Ah, le mur traverse les oliveraies, une zone agricole.
Ah, ben, je comprends. Et le mur en profite, entre guillemets, pour saisir, pour prendre, pour accaparer des terres parmi les plus, comment dire, les plus fertiles, si vous voulez, de certains villages palestiniens. Qui, ainsi, et puis, il y a aussi le mur passe entre certains villages et les terres de ce village, ce qui fait que les Palestiniens ne peuvent plus aller cultiver leurs terres, récolter les olives, etc. Et vous savez qu'il y a une loi israélienne qui dit qu'une terre inoccupée et non cultivée pendant 3 ans revient automatiquement à l'État. Il y a 80 puits qui ont déjà été saisi, si vous voulez, à cause de ce mur. Il y a déjà, les Palestiniens ont déjà perdu la jouissance de plus de 80 puits. Et il y a aussi, toujours à cause de comment vous dire, les Palestiniens demandent, oui, il y a eu 35 kilomètres de canalisation excusez-moi, et puis les Palestiniens demandent qu'il y ait au moins des portes, des trous dans ce mur pour qu'ils aillent, cultiver leurs terres. Et jusqu'ici, la réponse qu'ils ont eue, c'était qu'il n'est pas question que ce mur devienne un gruyère. Voilà.
Alors, j'ouvre une parenthèse en faveur d'un auditeur qui vous dit, madame, vous avez fait votre numéro de propagande sur une radio ultra-gauche lundi dernier. Tout cela est donc orchestré. Alors, c'est tellement flagrant que je passe aux aveux et que je dois dire que Radio Courtoisie, tout le monde le sait d'ailleurs, est orchestré et combine avec des radios d'ultra-gauche.
Je rêve, là.
Alors,
la première fois que je passe.
Ceux qui ne veulent pas croire que nous soyons en combination et avec Radio Libertaire ou même France Inter pour aller vraiment très loin dans l'extrême gauche, eh bien, ils comprendront tout simplement que nous pouvons bien qu'une radio de n'importe quelle couleur politique accueillir quelqu'un qui a des choses intéressantes et vécues et vues à dire d'une région à laquelle nous nous intéressons comme d'autres. Alors, le même auditeur nous rappelle que Jésus était juif, là aussi, je le remercie beaucoup, mais je dois lui dire que nous le savions déjà, et que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes sensibles, comme certaines gens d'extrême gauche, à ce qui se passe dans cette région, et que ça nous est, que ce conflit nous est extrêmement pénible et nous inquiète au plus haut point. D'autant plus, Emmanuel Ratier, qu'il commence à avoir des répercussions en France. Est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que le gouvernement ne commence pas à marquer de l'inquiétude? Est-ce que vous-même, vous n'éprouvez pas un peu d'inquiétude quand vous voyez des rapports dans la presse de ce rabbin agressé à Évry, ces lycéens qui se tapent dessus?
Enfin, je crois que c'est vraiment des épiphénomènes totalement médiatisés qui présentent peu d'intérêt, parce que les conflits sont beaucoup moins violents qu'avant dans la société française. Pour être très clair, il n'y a plus de morts, alors qu'avant, dans beaucoup de manifestations d'ultra-gauche ou de gauche ou d'extrême droite ou nationaliste, il y avait de forts échanges. Et il y a eu des échanges assez violents dans le passé entre communautés juives et communautés maghrébines, par exemple au moment de 67 ou de la guerre du Kippour. Donc je crois qu'il ne faut pas en rajouter là-dessus. Je pense qu'en revanche, on peut avoir quand même une plus grande inquiétude pour ce qui va se passer dans cette zone du monde, puisque Israël a acquis 3 sous-marins de fabrication allemande qui viennent d'être dotés de missiles avec des possibilités d'installer des têtes nucléaires. Or, tout le monde sait que le premier État à posséder des armes de destruction massive dans la région, c'est Israël, depuis très longtemps, avec M. Vaninul l'a payé. Il est au secret dans une prison en Israël parce qu'il avait osé le dire. Et les faucons israéliens, appuyés par les néoconservateurs américains, tout a été écrit par l'entourage de Rumsfeld il y a déjà plusieurs années, veulent se payer la Syrie et l'Iran. Donc je pense que au-delà du caractère totalement marginal, voire provocateur, d'un certain nombre d'événements qui se sont produits en France, puisque même M. Sarkozy a reconnu que ce qu'on appelle les événements ou les actes antisémites ou anti-juifs n'avaient cessé de diminuer depuis un an et demi, c'est-à-dire qu'il n'y en a même pas un par an par département, je crois que c'est au contraire géopolitiquement dans le Moyen-Orient qu'il faut être plus inquiet.
Et on peut donc garder notre inquiétude pour la région et ne pas donc.
Voilà. Et tout ce qu'a dit madame est tout à fait exact sur la Palestine. C'est une population qui est ruinée, qui n'a jamais été en réalité soutenue par les autres pays arabes, qui vit uniquement grâce dans des camps de réfugiés
depuis plus de 50 ans.
Depuis plus de 50 ans, avec les petites sommes qui sont données par les Nations Unies, mais le niveau de vie, les Palestiniens ne sont pas des gens qui sont plus imbéciles que d'autres. Et en réalité, dès que les gens ont fait des études, ils sont obligés de partir, parce que sinon, ils peuvent même pas être jardiniers ou cantonniers, puisque l'autorité palestinienne avait construit des... avait fait essayer d'installer une administration. Tous les bâtiments étaient détruits par les hélicoptères Apache de fabrication américaine. Toutes les personnes de qualité sont détenues en prison, parfois pendant des années, alors qu'elles n'ont rien fait. Et donc, les gens brillants s'en vont ailleurs. Et on se rend compte que la diaspora palestinienne se débrouille très très bien là où elle est installée. Bon, mais il est vrai que la Palestine est devenue une prison pour ses habitants. Mais en même temps, il y a un effet schizophrène qui fait que les Israéliens également sont dans une prison.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, madame, puisque vous évoquiez vos amis juifs. Est-ce qu'ils ne sont pas emprisonnés aussi? Parce que finalement, quand ils doivent se déplacer aussi, est-ce qu'ils ne sont pas entravés par tous ces contrôles, ces checkpoints?
Non, ils ne sont pas entravés. Mais il n'y a pas de problème pour eux. De toute façon, les plaques d'immatriculation ne sont pas les mêmes.
Il suffit d'une plaque d'immatriculation
Il faut quand même rappeler qu'ils ont tous le droit d'être armés. Et puissamment armé.
Et puis il y a aussi une chose que je voulais dire tout à l'heure au sujet des colonies par exemple qui entourent Naplouse par exemple, ce sont celles que j'ai vues. Il y a des routes, il ne faut pas oublier qu'il y a en ce moment en Israël 450 kilomètres de routes de contournement qui vont d'une colonie à une autre, de colonie au territoire israélien et qui sont strictement interdites aux Palestiniens, complètement interdites.
Ah bon, donc ils ont des itinéraires.
C'est-à-dire que vous avez sur des superbe route à deux ou trois ou quatre voies, 3-4-4 qui passent dans la journée. Puis à côté, vous avez des routes moyennes où vous avez tous les Palestiniens qui se déplacent. Voilà, c'est ça. Alors, en plus de tout le... Si vous voulez, c'est une prison à la fois virtuelle et une prison réelle. C'est une prison virtuelle, mais vous savez, une prison. D'un côté, il y a des prisonniers, et de l'autre côté, il y a des gardiens. Alors, si l'on transforme de l'autre côté, on transforme les autres en gardiens, c'est peut-être pas mieux non plus.
Oui, on dit souvent que la vie des gardiens de prison n'est pas beaucoup plus joyeuse. C'était le sens de la question que je vous posais tout à l'heure.
Je crois sincèrement, ils vivent dans la peur, vous savez, et contrairement à ce que certains peuvent s'imaginer, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont tout à fait opposés. Et d'ailleurs, il y a des associations très très actives, comme Gur Shalom, comme Betselem, etc. Des associations qui veulent faire respecter les droits des Palestiniens et qui sont des associations très courageuses. J'en dirai pas plus, mais qui sont très courageuses.
Alors, bien, encore un autre courageux, donc un auditeur à nouveau. On a un auditoire un peu particulier ce soir, donc je m'excuse monsieur, mais bon, je vais passer ce message sous silence, parce que il me semble qu'il est partisan et que nous avons essayé, non sans mérite, tellement la situation est douloureuse là-bas, nous avons essayé d'examiner les faits, nous avons essayé d'écouter tranquillement le témoignage d'une dame qui revient de passer 5 semaines là-bas et de rapporter des faits sans prendre parti.
Et vous savez,
je ne vous ai pas dit
le quart de la moitié de ce
voilà.
que j'ai vu.
Alors moi, je vais pas vous dire le quart du message que je viens de recevoir, parce que je pense que c'est vraiment pas intéressant de prendre parti, de s'exciter. Il faut, pour maintenir en vie la lueur d'espoir dont vous parliez tout à l'heure, il faut essayer d'examiner les choses objectivement, comme vous l'avez fait dans Sans Mérite, madame, puisque vous nous dites que vous avez été immergée dans cette population palestinienne pendant 5 semaines, et qu'évidemment, d'un point de vue émotif, je pense que ça a dû vous secouer quand même.
Oui, parce que j'ai eu la chance d'être j'avais des amis là-bas et j'ai eu la chance d'être extrêmement bien accueillie, vous savez, mais vous ne pouvez pas vous imaginer encore, si vous le savez puisque vous en avez parlé tout à l'heure, le rayonnement qu'a la France. Alors une Française qui vient toute seule comme ça passer 3 semaines à Naplouse et qui se promène dans la ville et qui parle, mais on m'arrête, on m'a dit plusieurs fois, vous voyez bien, nous ne sommes pas méchants et c'était notre terre. Vous voyez, regardez, Même les arbres, ils nous les cassent. Et les arbres, ça n'a pas d'armes, m'a-t-on dit plusieurs fois.
Alors permettez-moi d'objecter, hein, sans engager une discussion partisane, j'ai lu fréquemment qu'une très large fraction, pour ne pas dire une majorité de Palestiniens, appuyait les mouvements terroristes. Alors c'est peut-être là qu'on va diverger avec nos amis d'extrême gauche avec lesquels nous nous concertons d'après un auditeur tout à l'heure. C'est qu'eux parlent d'activistes, même les médias officiels parlent d'activistes. Nous parlons de terroristes en ce qui concerne le Hamas, le djihad. On dit fréquemment... sondage à l'appui que beaucoup de Palestiniens appuient ces mouvements terroristes.
Alors vous savez, c'est une question extrêmement complexe, puis très longue, qui serait très longue à expliquer. Tout ce que je peux vous dire de mon petit point de vue d'observateur, c'est que parmi mes amis aussi, palestiniens, aussi bien chrétiens que musulmans, je peux vous assurer que beaucoup n'approuvent pas le Hamas, c'est vrai. Beaucoup réprouvent les attentats qui tuent aveuglément les civils. Mais tous me disaient que la première violence, c'était de leur avoir pris leur terre, et qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mélanger les effets et les causes, et qu'il faut quand même toujours mettre les causes avant les effets. Et que les causes, c'est qu'effectivement, en 48, etc., 54% de la Palestine est passée aux Juifs, et bon, bref. Tout cela, c'est quand même vrai, c'est historique. Et c'est pour cela que certains, beaucoup réprouvent, mais ils n'ont que ça, si vous voulez, en quelque sorte. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un prêtre palestinien qui n'est pas du tout un va-t-en-guerre, qui est un homme extraordinaire, qui est plein de pardon, qui essaie vraiment d'avancer, de faire avancer les choses. Et il m'a dit, on vous aurait pris votre terre, on vous aurait pris votre maison, on vous aurait bulldozerisé votre maison, avec quelquefois la grand-mère ou dessous. On vous aurait empêché de suivre des études normalement, on aurait emprisonné votre frère, on vous aurait... etc. Qu'est-ce que vous feriez ? Que voulez-vous que je réponde ? Il me dit, on aurait même tué l'espoir. Qu'est-ce que vous feriez ? Mais je ne suis pas une inconditionnelle. Hein. Ne croyez pas que je sois inconditionnelle palestinienne. Les Palestiniens ont fait exploser le Liban. Il faut dire aussi que... Enfin...
Nous avons là une avalanche de messages. Je ne pense pas qu'on peut faire état de tous, mais Victoria va nous lire, disons, quelques messages raisonnables.
Oui. À propos des contrôles routiers dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas pour se protéger que les Israéliens les ont installés plutôt que par méchanceté gratuite ?
Écoutez, moi je vais vous raconter simplement une expérience vécue à un checkpoint où j'étais toute seule au milieu de Palestiniens. Je suis désolée, mais nous avons été traités exactement comme... Je suis vraiment navrée, mais moi j'ai bousculé, poussé comme du bétail, quoi. Voilà, c'est tout. Nous n'avons pas été traités... Un checkpoint, ça pourrait se passer, entre guillemets, plus normalement, plus humainement. Mais il y a une sorte de mépris, je ne sais pas comment vous dire cela. Moi, je l'ai ressenti, mais vous savez, j'ai été profondément scandalisée parce que moi, je ne savais pas exactement que ça se passait comme ça. J'en avais entendu parler, comme tout le monde, mais je l'ai vécu. Alors, les checkpoints pour se protéger, c'est fort possible, mais alors dans ce cas, qu'on ne sépare pas, par exemple, comme je l'ai vu deux fois, les couples et les enfants. C'est inutile. Ça ne dure qu'une heure, mais imaginez l'angoisse, parce que parfois, ça a duré des mois. Imaginez l'angoisse.
Une auditrice nous dit, pour avoir été l'année dernière en Palestine à la même époque, ce que raconte votre invité est en dessous de la vérité.
Bien.
Un auditeur demande, que deviennent les minorités chrétiennes en Palestine et en Israël ?
Alors, les minorités chrétiennes, si je puis me permettre, sont un petit peu entre le marteau et l'enclume. Pourquoi ? Eh bien, parce que très souvent, les Palestiniens chrétiens et les Palestiniens musulmans s'entendaient très bien. Et puis, avec cette vie de plus en plus dure, difficile, il y a des tensions qui se développent, mais vraiment des tensions très importantes. Je vais vous donner un exemple récent. À Bethléem, par exemple, il y a des musulmans qui ont décidé de faire comme ce qu'on leur avait fait, c'est-à-dire de saisir des terres des chrétiens. Et il y a, je connais un chrétien de Bethléem, un homme qui a une certaine fortune, et il parle très bien français, on lui a pris ses terres, il a loué les services, entre guillemets, d'une vingtaine de gros bras, et à la pointe du fusil, il a récupéré ses terres que des musulmans lui avaient prises. Et Monseigneur Saba, qui est donc Monseigneur Michel Saba, qui est donc l'archevêque de Palestine, a eu un entretien avec Yasser Arafat à ce sujet-là. Et Yasser Arafat lui a promis, ça je vous parle de ce qui s'est passé avant l'été, hein, au printemps dernier, lui a promis de veiller à cela. Mais si vous voulez, les tensions, par exemple, je sais aussi que, parce que je l'ai vu, que par exemple les entreprises palestiniennes musulmanes embauchent les musulmans beaucoup plus que les chrétiens. Vous voyez, ça c'est clair. C'est clair.
Alors, il nous reste quelques minutes. Encore un message, Victoria ?
C'est tout à fait de détail. De quelle couleur sont les plaques d'immatriculation des voitures des Israéliens et des Arabes israéliens ?
Alors, les Palestiniens, elles sont vertes. Les Israéliens, j'ai un arrêt sur image. J'ai oublié.
Bon, peu importe. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Moi, je tiens à faire état d'un autre paquet de messages que Victorien m'a gentiment transmis et qui permet de voir que c'est impossible d'aborder ce sujet sans déclencher des crises d'urticaire. Alors, je résume à la file une série de messages assez hostiles à votre témoignage, et je comprends mal pourquoi. La dame qui parle a-t-elle aussi rendu visite à des familles pulvérisées par des kamikazes? Un autre monsieur nous dit que le mur est là pour empêcher les terroristes d'entrer en Israël. Un autre monsieur demande quel but poursuivez-vous en attaquant systématiquement Israël? Pourquoi prenez-vous parti pour les terroristes? Bon, sans commentaire, un autre monsieur, en cas de paix dans la région, nos frères chrétiens souhaiteraient-ils vivre sous l'autorité musulmane ou sous l'autorité juive? Un autre auditeur, j'espère que si un jour notre pays était confronté au même problème que l'État d'Israël, vous changerez d'avis. Et enfin, pourquoi, ça résume tout, pourquoi vos intervenants prennent-ils parti pour la Palestine contre Israël, qui est un pays démocratique? Alors il me semble, madame, et donc dans les deux minutes qui nous restent, je vous prie de confirmer mon impression, que nous avons essayé simplement de rapporter un témoignage oculaire sur les conditions très difficiles de vie de la population palestinienne, sans prendre parti pour qui que ce soit, en essayant de comprendre.
Alors écoutez, là je vais quand même dire une chose. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas dit le quart de la moitié de ce que je sais et de ce que j'ai vu, hein, parce que pour des tas de raisons. Mais il y a une chose certaine.
Mais donc le quart suffit à froisser beaucoup d'auditeurs.
Oui, en effet. Je ne prends pas parti pour les terroristes. Je ne hais pas Israël, c'est complètement faux. On me prête des procès, on me prête des intentions qui sont absolument fausses, mais vous savez, il y a aussi le fait que les gens ne sont absolument pas renseignés, parce que lorsqu'il y a des attentats qui sont tout à fait répréhensibles, je suis la première à le dire, et mes amis palestiniens aussi, qui atteignent des civils, eh bien je peux vous dire que pendant ce temps-là, et là aucun média ne s'en fait l'écho, il y a par exemple, comme ça s'est passé pendant que j'y étais, une douzaine de personnes qui ont été tuées tout simplement en appelouse. Il y a eu une voiture à Gaza qui a été visée par un hélicoptère. Il y a eu 6 personnes tuées. Il y a eu des dizaines de blessés, dont 10 enfants. Et dans les 6 personnes, il y a eu un bébé. Et ça, on n'en parle absolument pas. Alors, pourquoi toujours 2 poids, 2 mesures? Je vous en supplie, renseignez-vous. Lisez les livres du père Elias Shakour, cet extraordinaire palestinien chrétien qui, lui, a transcendé cette douleur et cette horrible chose qui lui est arrivée à lui et à sa famille lorsqu'on l'a jeté de son village, qu'on a déporté son père. Et que lui a pris sa terre. Il faut lire ses ouvrages. Il faut lire le livre noir Israël-Palestine, Reporters sans frontières, avec une préface de Ronnie Broman, hein, dont je vous laisse imaginer la nation. Enfin bref, et lire aussi Frère de sang d'Elias Shakour aux éditions de l'Emmanuel, que l'on trouve dans n'importe quelle librairie, en particulier à la procure. Je vous en supplie, cessez de fermer les yeux, regardez, écoutez. Et ne croyez pas que je sois animée par la haine. Je suis animée par l'amour de ceux qui souffrent. Et croyez-moi, j'en suis. suis malade de voir cet espoir qui crève tous les jours.
Bien. Alors moi, j'ajouterais seulement à ces titres celui de Roger Hollande, notre ami Roger Hollande avec qui nous parlions tout à l'heure, Israël-Palestine, assez de mensonges. Mmh. Et puis, je vais vous remercier, Philippine David, pour le témoignage à la fois, m'a-t-il semblé, passionné, vécu, senti et objectif que vous avez essayé d'apporter avec toute la modération possible. Et puis, je pense que notre ami Franck, en régie, se tient prêt à nous envoyer une bouffée d'air frais musical pour adoucir les mœurs avec un titre charmant, léger et profond à la fois de Charles Trenet.
Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert, au printemps la neige est fleurie. Et la marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois je n'ai pas fermé l'œil. Marmotte, vous mentez, voici venir l'été, les oiseaux vont chanter dans la nature. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Allez, rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Ciel joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, mon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Bonjour mes amis, le ciel a permis que je chante encore par le monde. La joie et l'amour, ça revient en jour, entrons tous en cœur dans la ronde. Oh la garçon et vous fillettes jolies, dites-vous bien chaque jour, chaque nuit. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu. Et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Oui, les...
Alors Victoria, vous n'êtes pas contente ?
Ah non, parce que je trouve qu'il y a une de nos auditrices qui a beaucoup téléphoné sûrement, qui ose dire, quand un message gêne votre directeur, vous le mettez de côté. On aimerait entendre les deux sons de cloche. Je crois que je vous les avais entendus et qu'il y a eu beaucoup de messages lus ce soir.
Je suis le directeur ou je suis la cloche ?
Ah ben vous êtes...
C'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Luitte ?
Ah ben écoutez, je pense que votre émission est toujours surprenante et donc je pense que les auditeurs trouvent que on les entend pas assez. Et moi je suis...
Oui, c'est injuste hein, comme reproche, parce que souvent on reçoit 150, 200 messages et évidemment on ne peut pas tout lire. Là on en a reçu plusieurs dizaines, on a à peu près tout lu. C'est pas gentil, c'est méchant. Alors on change complètement de sujet. Les auditeurs ont compris donc que nous avions au téléphone Philippe Luitte, journaliste, qui va nous parler de toute autre chose. Mais de quoi ?
Écoutez, moi je vais vous parler d'un colloque que nous organisons samedi au Cercle Interallié. C'est un colloque dont le titre est « Regard critique sur le développement de l'Europe ». Ce colloque est organisé par l'Union des intellectuels indépendants, en accord avec l'Institut de la Maison de Bourbon, qui avait, il y a 2 ans, déjà organisé un colloque sur le thème de la monarchie et patrimoine européen pour le 21e siècle. Alors, c'est donc la suite. Ce colloque est organisé par le professeur Tournafond, le professeur Lauveau, le professeur Jacques Foyer. Et il a donc une matinée d'études, un déjeuner, et ensuite l'après-midi.
Un très bon déjeuner, je peux le dire savamment. Et je peux dire aussi aux gens qui vont se rendre à ce colloque, si c'est la première fois, qu'ils ne fassent pas comme moi, qu'ils ne débarquent pas au Cercle Interallié, à côté de l'Elysée, en polo.
Il faut une
cravate, sinon ils subiront comme moi l'humiliation d'emprunter une cravate et un blazer au personnel.
c'est pas une humiliation, vous étiez très bien. Je crois que vous aviez une cravate jaune du plus bel effet.
Oui, oui, sur mon polo jaune, j'avais l'air très malin. Bon, quittons mon cas personnel et détaillons un peu le programme de ce colloque, si vous voulez bien, j'ai pas tout compris.
Alors, c'est un colloque qui est tout à fait au cœur de l'actualité. La construction politique de l'Europe, est-ce que à l'intérieur de cette Europe, il ne faudrait pas ajouter un peu une âme? Et l'idée des professeurs de droit qui sont à la base de ce colloque, c'est que pourquoi ne pas s'orienter vers une forme monarchique à la tête de l'Europe, c'est-à-dire un homme représentant non pas un président simplement, mais un monarque, un empereur, un homme qui, aux yeux de tous les Européens, serait l'arbitre, l'espoir, l'image.
Nous sommes nombreux à nous demander si ce serait un moyen ou s'il y a d'autres moyens d'obtenir un peu d'homogénéité de la législation européenne. Nous sommes par exemple nombreux à nous étonner que d'une part Monsieur Chirac s'exprime récemment au nom de l'Allemagne et de la France, mais que d'autre part la France double et triple et quadruple les tarifs du tabac pendant que l'Espagne et la Belgique n'en font rien. Il y a quand même une incohérence dans cette législation européenne. Je ne sais pas si c'est un roi ou un empereur qui pourrait régler ça, mais il y a véritablement, c'est un véritable problème auquel vous proposez cette solution, Philippe Huit.
Oui, nous, la solution, c'est qu'au-dessus des États ou d'un système fédéral, confédéral, nous sommes plutôt partisans d'un système confédéral, il faut une autorité qui soit arbitre, en laquelle tout le monde se reconnaisse, et qui permettent de créer cette unité. Par exemple, tout le monde sait très bien que s'il n'y avait pas eu le roi des Belges, la Belgique aurait éclaté il y a une vingtaine d'années. Tout le monde sait bien que l'Espagne, sans un monarque, serait divisée entre des forces excessivement séparées et hostiles. Et donc, nous pensons qu'il faudra peut-être explorer cette piste. Alors, bien sûr, c'est simplement sur le plan des grandes idées et du droit. Il y aura une première intervention du professeur Bousco sur l'universalité de la monarchie française. Ensuite, Philippe Loveau, qui est professeur à Paris 2.
Philippe
Loveau, qui est professeur à Paris 2, qui est un Belge, parlera de l'actuelle réforme des institutions européennes. Ensuite, Olivier Tournafond parlera de la monarchie statutaire, modèle d'état de droit pour l'Europe, point d'interrogation. Ensuite, une table ronde qui réunira Frédéric Rouvillois, Monsieur Allard, qui est un consultant de géopolitique qui habite Madrid, Philippe Loveau, dont professeur, et Pierre Monzani, qui est le directeur général du pôle d'art de Vinci, et qui est secrétaire général de l'Association pour l'avenir de l'Europe.
Bon, bah écoutez, Philippe Huit, je trouve que c'est un programme alléchant. Est-ce que vous pourriez maintenant, pour les auditeurs que vous avez alléchés, leur dire comment, quand et à quel prix ils peuvent prendre part à ce colloque?
Écoutez, en principe, maintenant, les choses sont à peu près bouclées. Néanmoins,
Décidément, vous êtes comme Hollande qui nous fait la réclame pour sa fête de samedi et qui finit par nous dire que c'est pas la peine de réserver.
Ah non, les gens peuvent parfaitement venir. La simple chose, il y a des places disponibles pour le colloque et éventuellement pour le déjeuner. La seule précaution à prendre, c'est de me téléphoner au 06 86 37 25 63. Je répète 06 86.
Vous répétez doucement, s'il vous plaît.
06 86 37 25 63.
Merci.
Et à ce moment-là, suivant que les gens veulent participer à toute la journée, bien sûr, je leur ferai le prix des membres, ce qui est à 80 €. Et s'ils ne veulent pas participer au déjeuner, je leur ferai un prix spécial.
Oui, ça, 80 €, ça peut faire peur, mais il faut comprendre que ça se passe dans un cadre prestigieux, je peux en témoigner, puisque j'ai eu le privilège d'être votre invité une fois déjà. dans un cadre prestigieux et que le déjeuner et le service de ce déjeuner sont d'une qualité exceptionnelle. Bon, c'est à deux pas de l'Élysée, c'est une espèce de petite Élysée, y compris un parc.
Oui, c'est l'ancien hôtel de Pauline Bonaparte, c'est un des plus beaux jolis jardins de Paris. Mais les gens qui ne veulent pas participer au déjeuner, je leur ferai un prix de 25 euros s'ils veulent simplement participer à la réunion, au colloque le matin, l'après-midi, et puis ils pourront aller déjeuner dans un petit bistrot de quartier s'ils ne veulent pas avoir ce déjeuner un peu banquet.
On a oublié qu'une chose, Philippe Lutz, c'est la date de ce colloque, ou du moins faut-il la répéter ?
Samedi 25 octobre, donc le samedi dans 4 jours, c'est à 9h du matin, et ça se termine à 16h30, un rapport de synthèse qui sera fait par le professeur Jacques Foyer, professeur à l'Université de Paris.
Ah ben en effet, on donne l'adresse du cercle interallié quand même, et le métro
33 Faubourg Saint-Honoré, et le métro c'est Madeleine ou Concorde.
Voilà, alors je rappelle simplement votre numéro de téléphone, c'est très urgent, donc puisque c'est samedi, 06 86 37 25 63, et je vous remercie de tout cœur, Philippe Lutz, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, nous saluons Philippe Lutz et nous nous tournons maintenant vers Monsieur Algizi, qui est le responsable de la bibliothèque Jeanne d'Arc que j'aime beaucoup et que j'appelle moi une délicieuse petite bonbonnière. C'est rue Jeanne d'Arc. C'est une pièce de 25-30 mètres carrés.
Allons jusqu'à 40 mètres carrés.
40 mètres carrés. Et combien de livres dans ces 40 mètres carrés ?
Oh, je pense qu'on peut évaluer à peu près à 3000 ouvrages, peut-être même un peu plus. Nous avons fait d'ailleurs beaucoup d'efforts là-dessus, puisqu'il y a quelques années, c'était 1500 ouvrages. Nous en avons maintenant un peu plus de 3000. Et nous avons aussi beaucoup de livres récents. Ne serait-ce que cette année, d'ailleurs, nous avons intégré aux alentours de 550 ouvrages.
Alors, il faut dire tout de suite, pour ne pas enduire les auditeurs d'erreur, que ça n'est pas la bibliothèque rose. Tout à fait, vous êtes la bibliothèque Jeanne d'Arc est une bibliothèque spécialisée. Disons, quelle spécialité ? Eh bien, à la radio de toutes les droites, vous pouvez le dire.
On peut dire que ça représente le courant identitaire dans son acceptation le plus large. C'est ainsi que nous avons des ouvrages concernant, par exemple, la tradition, des ouvrages écrits par les lefévristes sur Monseigneur Lefebvre, ou écrits tout simplement par Monseigneur Lefebvre. Nous avons aussi des ouvrages concernant la royauté, des ouvrages légitimistes, par exemple. Nous avons pas mal d'ouvrages, entre autres, sur Louis XVII. Mais nous avons aussi des ouvrages pour les personnes dites de la Nouvelle Droite, c'est-à-dire des ouvrages de Pierre Vial, d'Alain de Benoît, et bien évidemment, en ce qui concerne le courant identitaire, nous avons des ouvrages concernant le Front National, écrits par des gens du Front National, du Club de l'Horloge, enfin, que sais-je encore.
Je m'aperçois, M. Algizi, qu'on est tellement parisien et parisianiste qu'on a omis de préciser pour nos auditeurs de Tokyo ou de Los Angeles que nous parlions d'une bibliothèque parisienne. Alors, disons-le, vous êtes à Paris, rue Jeanne d'Arc, dans le 13e, à côté du métro Campo Formio, je crois.
Tout à fait.
Que les résidents de Québec peuvent aller boire un verre pendant 5 minutes encore, ça ne les concerne pas directement. Encore que ils peuvent correspondre avec vous, ils peuvent vous envoyer des livres, ils peuvent en échanger avec vous, pourquoi pas.
En ce qui concerne le Québec, je pense que ça sera difficile, mais de toute façon, si ce sont des ouvrages, je dirais par nature, correspondant à une politique, je dirais, identitaire, ma foi, pourquoi pas. Oui, on est tout à fait prêt pour les prendre. On en a pris déjà pas mal et là-dessus, ça ne pose aucun problème, oui.
Oui, alors je fais allusion à des donations. Je crois que c'est pas gratuit, si j'ose dire, parce que vous inscrivez, vous accueillez les gens pour une cotisation très modique. Vous pouvez en rappeler le montant.
Alors justement, ça va me permettre de mettre au point, de corriger une assertion, puisque on nous dit souvent, lorsqu'on vient s'inscrire, dites donc la bibliothèque Jeanne d'Arc, il faut payer 45 euros. Eh bien non, cher futur adhérent, il faut payer simplement une cotisation annuelle qui est prise de date à date de 20 euros. À ceci vient se rajouter une caution de 25 euros qui par définition est une garantie, une précaution, et je préfère le préciser parce que des fois ça n'est pas toujours très clair. Une caution bien évidemment est remboursable si la personne nous rend les livres et si elle décide de partir de l'association de la bibliothèque Jeanne d'Arc.
Bien, est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce qu'il y a une nouveauté, une nouvelle section d'ouverte? Est-ce que c'est routine?
Non, on a d'ailleurs plusieurs projets en cours, mais enfin ça se fera, je pense, au fur et à mesure des mois. Ce que je peux dire, c'est que nous achetons beaucoup d'ouvrages dont on parle à Radio Courtoisie. Je pourrais d'ailleurs pratiquement dire que nous sommes un peu le pendant livresque de Radio Courtoisie. Par exemple, vous avez parlé de l'ouvrage de Roger Olindre sur la Palestine. Nous allons acquérir tout un tas d'ouvrages aussi sur ce sujet. Nous en avons d'autres aussi. Mais nous avons aussi des ouvrages sur la désinformation. Nous sommes abonnés à plus de revues qu'auparavant. C'est ainsi que nous recevons maintenant l'Afrique réelle de Bernard Lugan, Faits et documents depuis un an. Nous avons bien évidemment le libre journal, l'excellent libre journal de Serge de Bekech. Nous recevons Monde et Vie, Rivarol, et puis aussi, mais à titre plutôt sporadique, la nouvelle revue d'histoire, Aventure de l'histoire, la lettre de Guillaume Fay, etc.
Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui dressent l'oreille. Tous ces gens que je rencontre qui m'achètent le libre journal au numéro, et puis qui me disent en soupirant, ah là là, c'est pas possible de s'abonner à tout, je suis déjà abonné à 3, 4, 5 journaux. Tous ces auditeurs également qui nous entendent plusieurs fois par jour sur Radio Courtoisie recommander tel ou tel livre, dont chacun coûte souvent 20 euros ou plus, eh bien, ils vont donc pouvoir consulter pratiquement tous ces livres, beaucoup d'entre eux, pour le tarif de 20 euros par an.
Voilà, c'est-à-dire, en fin de compte, pour le prix d'un seul livre, nous offrons 3000 ouvrages minimum, et en plus, évidemment, les personnes peuvent lire les revues que j'ai citées précédemment, peuvent même aussi les emporter à condition que ce ne soit pas les deux derniers numéros. Donc c'est tout à fait possible d'emprunter par exemple l'Afrique réelle qui date de 3 semaines, 1 mois, Faits et documents, etc.
Bien, mais écoutez, Monsieur Algizi, il me reste à vous remercier si vous n'avez rien à ajouter, mais à mon avis, vous devriez ajouter quand même votre adresse et votre numéro de téléphone en articulant et en répétant.
Bien. Alors donc, nous sommes ouverts les samedis et les lundis de 14h à 18h, à l'exception des jours fériés, c'est ainsi que le jour de la Toussaint qui tombera, je pense, un samedi, nous serons fermés. Mais en règle générale, les samedis et les lundis de 14h à 18h, nous sommes au 17 rue du Méril, ça s'écrit D-U-M-E-R-I-L, dans le 13e à Paris. Le métro le plus proche, ma foi, c'est Campo Formio.
Le bus le plus proche, ma foi, c'est le 91.
Je pense que vous avez dû le prendre.
Oui, je l'emprunte, oui, pour venir chez vous. Oui.
Voilà. Alors, je pense que le mieux est quand même de prendre le numéro de téléphone, parce que l'endroit, c'est vrai, vous l'aviez dit une fois, n'est pas toujours évident à trouver. Donc le numéro de téléphone, je vais le dire assez lentement, de manière à ce que les lecteurs potentiels puissent prendre ce numéro. Donc, c'est le 01 47 07 15 66, je répète. 01 47 07 15 66, le samedi et le lundi de 14h à 18h, à l'exception des jours fériés.
Bien, ben je vous remercie beaucoup, monsieur Algizi, et pour ma part, je vais continuer à fréquenter la bibliothèque Jeanne d'Arc, qui est une charmante bonbonnière et qui est un charmant, un excellent, je veux dire, lieu de référence. Ça m'est arrivé de rédiger, de documenter des articles uniquement en m'appuyant sur votre fonds, qui est donc très complet, de très bonne qualité.
Très bien, je vous remercie.
À bientôt, monsieur Algizi. Alors, ma foi, si je consulte le conducteur que Serge a rédigé avant de s'effondrer, c'est mon tour de faire mon numéro. Alors, je pense que quand il met sur le conducteur Goffman, c'est le numéro habituel.
C'est l'usage de vous couper un peu la parole. Est-ce que je peux vous lire
Oui, en l'absence de Serge, c'est à vous, Victoria, de me couper la parole au moment où je vais faire la publicité de son journal.
Je voudrais revenir seulement
sur mais pas tout.
Israël-Palestine. On a deux messages qui sont complètement...
On a passé deux minutes de musique légère pour changer de sujet définitivement.
Là, c'est pas du tout passionné. C'est vite. Je connais l'Égypte, et c'est une dame. Je connais l'Égypte et la Palestine de l'intérieur, pas de longs séjours. Ce qui m'a frappé, c'est le sous-développement de ces pays et leur démographie. Le problème est là. Et un auditeur, dans l'affaire Israël-Palestine, il faut enfin dire que beaucoup de monde a des intérêts à ce que ces gens se battent, trafic d'armes, etc. Donc là, c'était dépassionné, voilà. C'est pour
merci.
Ça que je voulais lire.
Merci de l'interruption, Victoria. Donc, je fais maintenant mon numéro à moi, et les auditeurs ont l'habitude donc de m'entendre chanter les louanges du libre journal imprimé, animé par Serge de Bekech. J'ai sous les yeux le numéro 304, et ben, comme j'ai pu l'annoncer mercredi dernier, nous avons imprimé le jour même du suicide de l'ex-adjudant Pierre Chanal. Nous avions au marbre un article de révélation assez exceptionnelle, un article exceptionnel, des révélations assez sensationnelles sur les liens possibles de ce Pierre Chanal avec ce que nous appelons la pornocriminalité, le porno business. Il faut dire que le suicide de Pierre Chanal est extrêmement suspect. Ce sont des anatomistes qui le disent. Nous avons dans le numéro en cours, numéro 304 du Libre Journal, nous avons également l'annonce du prochain scandale médical en France, qui devrait égaler par sa puissance l'affaire du sang contaminé, puisque un rapport médical affirme qu'on a sacrifié volontairement des milliers de cancéreux pour des raisons économiques, donc les raisons les plus sordides et les plus scandaleuses qui soient. Je pense que ce sera sur TF1, sur tous les gros médias dans quelques semaines. C'est d'ores et déjà sur deux pages du Libre Journal numéro 304. Nous avons également, toujours dans le même numéro, le commandant Pierre-Henri Bunel, que nous avons reçu à ce micro fréquemment, le commandant Bunel qui a travaillé pendant des années à l'OTAN et qui nous explique comment les USA sont en train de transformer cette institution internationale en une espèce de réservoir de supplétifs pour les soulager en Irak aussi bien qu'en Afghanistan dans leur conquête qui part du Moyen-Orient et qui pourrait bien aller jusqu'en Asie centrale avec le pétrole comme centre d'intérêt principal. Nous revenons sur deux pages également sur la mort de Leni Riefenstahl avec un article extrêmement érudit sur la carrière cinématographique de Leni Riefenstahl et de ses confrères allemands de l'époque et des perspectives à plus long terme. Et puis ce numéro 304 est ce qu'on appelle un collecteur dans l'argot des collectionneurs, surtout parce que François Brignon en est absent pour la première fois depuis de très longues années. Alors je terminerai ce numéro en disant simplement, en annonçant simplement que dans notre numéro suivant, le numéro 305, nous aurons un article de notre divin marquis, l'authentique marquis d'Olmeta, qui a brusquement décidé de régler ses comptes avec Stéphane Bern. Je pense que, sauf objection de Serge de Bekech, en ma qualité de secrétaire de rédaction, j'intitulerai cet article « Stéphane Bern à poil ». Et ça n'est pas une provocation ni une invention de ma part. Tous les lecteurs de Paris Match comprennent à quoi je fais allusion. Et puis nous aurons aussi un entretien avec Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, qui revient d'Azerbaïdjan où il a effectué un grand reportage pour Le Monde et qui nous donne ses impressions sur ces chrétiens du Caucase à la fois massacrés et vainqueurs. Et nous parlons là des Arméniens, des chrétiens d'Arménie qui ont subi de véritables pogroms de la part de l'Azerbaïdjan voisin, qui ont tous été chassés de la capitale Bakou, mais qui ont remporté dans le Karabakh une victoire tout à fait historique, puisque Péroncel-Hugoz fait remarquer que c'est probablement la première victoire chrétienne dans cette région depuis l'arrivée des armées arabes après la mort de Mahomet. Alors voilà, je crois que, j'espère en tout cas, je crois que c'est un journal intéressant. J'espère que j'en ai persuadé les auditeurs et qu'ils ont déjà le crayon à la main pour noter qu'ils peuvent trouver des spécimens gratuits du Libre Journal sur le site internet France Courtoise en un seul mot .info. Qu'ils peuvent se procurer un des numéros dont je viens de parler, 304, ou le numéro 305 que nous bouclons la semaine prochaine, contre un carnet de timbres, et puis qu'ils peuvent s'abonner pour un an, donc à ce décadaire qui paraît sur 24 pages trois fois par mois, pour un chèque de 110 euros. Donc le carnet de timbres ou le chèque de 110 euros sont à envoyer à la société SDB, 4 places France List, 75-010, Paris. Et maintenant, un peu de musique douce, puisque nous approchons à grands pas du centre, du milieu de la deuxième partie de cette émission, de la deuxième moitié de cette émission. Nous en sommes encore, la régime fait signe que nous en sommes
à 10 minutes,
de 10 minutes.
Victoria
a quelque chose à dire.
Musique, là, oui. D'abord, nos auditeurs sont très méchants aujourd'hui, très très méchants. Alors une auditrice nous dit, Victoria, votre dictature nous agace.
Et moi donc,
comment
voilà. Elle me terrorise.
Si vous voyez la tête de Patrick, bon, vous le comprenez. Et alors, pour ne pas être en reste, un auditeur, on dit l'acception du terme et non l'acceptation. Et pan sur le Patrick. Un petit message.
Pan sur l'Algésie et une caresse à Patrick qui a eu la gentillesse de faire la sourde oreille et qui est un peu plus gentil que cet auditeur.
Je n'avais rien entendu.
Je trouve ça méchant. Moi, j'ai entendu et je ne l'ai pas relevé. Je trouvais que c'était méchant de reprendre de voler.
Oui, mais c'est pour vous dire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qu'on dit.
J'ai trouvé que ce serait méchant de reprendre de voler un bibliothécaire qui subit un certain stress, une certaine émotion dans un studio de radio auquel il n'est pas habitué.
Alors, je vais laisser. On invitera notre auditeur à venir parler pour voir s'il parlera
si va
bien
mieux.
Celui-là. Bon. Et puis alors, un message qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit, mais tout de même, entendu dernièrement sur une radio généraliste, une question posée aux auditeurs. Jean-Marie Le Pen peut-il l'emporter au régional en région PACA? Réponse d'un auditeur. Je suis adhérent à l'UDF, mais je voterai sans hésiter Le Pen, il y a trop de laxisme. L'auditeur a essayé ensuite de développer sa réponse, mais on l'a empêché de parler, croyez-vous. Et puis alors un auditeur, il y a beaucoup de messages d'encouragement pour Serge Le Bécquet, pour l'établissement, etc., etc. Et alors un auditeur lui dit, grâce à Serge, j'ai découvert les huiles essentielles. Depuis l'émission avec le docteur Willem, nous ne sommes plus allés chez le médecin, bien qu'ayant 4 enfants. Donc je conseille à Serge de mélanger, ça peut être valable pour tout le monde parce qu'il paraît que la grippe arrive et qu'elle est très méchante. Je conseille à Serge de mélanger dans 2 cuillerées d'huile végétale, exemple huile d'olive bio, 3 gouttes de niaouli, 3 gouttes de ravensar, 3 gouttes de titri, 3 gouttes de lavande, à masser sur le thorax et le dos, sur les poumons. C'est radical. En 2 jours, il est guéri. Bon courage, Serge.
Mais comme s'il n'était pas déjà entiché de suffisamment de poudre de perlimpinpin et d'autres charlatans.
Et puis, je vais peut-être vous faire quelques petites annonces.
Oui, allez-y, parce que la régime fait signe qu'il nous reste 5 minutes avant le...
Mais moi, je sais, j'aurais attendu, écoutez donc. Alors, le dîner-débat, Louis-Ferdinand Céline et Robert Brasillac, avec Pascal Junot, président des Amis de Robert Brasillac, et Marc Laudeloup, éditeur du bulletin célinien, à l'occasion de la parution du livre de Henri Poulain, Entre Céline et Brasillac, édition Le Bulletin Célinien. Ce vendredi 24 octobre à 20h au restaurant Le Chalet de Neuilly, 14 rue du Commandant Pilot à Neuilly-sur-Seine, métro Porte-Maillot. Prix 30 euros. Réservation, envoyez un chèque à l'ordre des ARB à Pierre Souville, 2 rue Pierre Curie, 78000 Versailles. Téléphone fax 01 39 51 08 47.
Pour que vous puissiez reprendre haleine, moi je vais interjeté la rediffusion d'une annonce, donc celle du CNC, à Neuvy-sur-Barangeon, entre Vierzon et Bourges, samedi 25 octobre prochain. Donc notre ami Roger Hollande vous offre pour le prix dérisoire de 15 € par personne, un méchoui et une messe, et ainsi que l'inauguration du monument aux morts à tous les combattants de l'armée française de toute race et de toute religion trahis par ceux qui les avaient envoyés au combat. Tout le monde comprend de quoi et de qui il s'agit. Le CNC 01 40 59 07 66.
Et le salon France Jeunesse, salon du livre et des produits de jeunesse avec des animations, se déroulera le samedi 8 novembre de 14h à 19h et le dimanche 9 novembre de 11h à 18h à l'espace Saint-Bernard, 10 rue du Petit Musc, 7504 Paris, métro Sully-Morlan ou Bastille. Renseignements 01 69 78 30 23. Et puis, la Maison de l'Identité vous invite à la deuxième fête de l'Identité et des Libertés, le samedi 15 novembre, au Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie, à Versailles. Participation aux frais 10 €. La station de métro, c'est le RERC 5, station Versailles-Rive-Gauche, et il y a de nombreux parkings.
Il me semble que c'est la deuxième édition de cette fête qui avait lieu à Wagram dans le 8e l'année dernière. Donc je suis ravi de cette occasion de retrouver nos amis, nos nombreux amis, nombreux auditeurs de Versailles. Le 15 novembre, on en reparlera, je pense.
Le 15 novembre, et alors je peux vous dire le programme des réjouissances.
Allez-y, nous avons
à 11h. Islamisme et communautarisme avec Alain Chevalierias, Guillaume Fay et Robert Spieler et un animateur surprise. 12h30, dédicace sur stand permanente, animation musicale avec le docteur Merlin et le chœur Montjoie Saint-Denis. L'après-midi, à 14h-15h, réalité européenne avec des camarades européens, débat animé par Fabrice Robert. 15h-16h, géopolitique et stratégie avec Pierre Vial et Jean-Gilles Maliarakis, débat animé par Serge de Becquetch. On pense que quand même le 15 novembre, il sera rétabli grâce aux frictions
de poudre de perlimpinpin.
De 16 à 17h, les droits de l'homme, fin de l'histoire, avec Pierre Chassard, l'abbé de Tannouarne et Pierre de Meuse, débat animé par Éric Delcroix. 17h30-20h, projection d'un film documentaire, suivi d'un débat, Le combat de demain, avec l'équipe de Jeunes Résistance, Devenir, réfléchir et agir, et François-Xavier Stidoz. Et 21h-23h, soirée musicale, avec la participation de In Memoriam et Nouvelle Destinée.
Je vous remercie. Bien sûr que j'irai en courant. Et j'espère que Serge me fera...
Avec beaucoup de journaux, il y aura beaucoup de stands aussi.
J'espère que Serge me fera une petite place sur son stand. Alors, je n'ai plus pour ma part à annoncer que la suite du programme, puisque cette fois, nous approchons bel et bien de la césure de l'émission. Oui, Franck, il reste 2 minutes, mais je pense que vous consentirez à lancer un peu de musique douce dans 30 secondes. Après que j'aurai simplement annoncé la suite du programme, restez avec nous, puisque nous allons recevoir le docteur Dor, notre cher docteur Dor, qui va nous parler de l'opération Jéricho. Ce sera une surprise sensationnelle.
La septième fois, les murailles tombèrent.
Merci.
On en approche.
Nous recevrons ensuite Thierry Marignac, journaliste écrivain, qui vient de publier chez Rivage Noir un roman policier qui se passe en Russie et il sait de quoi il parle, puisqu'il y a séjourné plusieurs années. Nous parlerons avec lui du chanteur Vysotsky. Il y a également une publication qui le concerne. Nous parlerons de Limonov, nous parlerons de tout un tas de choses. Donc ce sera une séquence Russie qui devrait retenir l'attention de beaucoup d'éditeurs, qui sera intéressante, je crois. Nous recevrons Nicolas Tandler, journaliste et syndicaliste. Nous recevrons Arnaud de Villoutray au sujet de la prochaine réunion des royalistes à Villepreux. Voilà, à tout à l'heure, chers auditeurs, restez bien avec nous.
Thank you.
Amis de la Résistance, rebonsoir. Et pour ceux qui n'ont pas la radio en couleur, eh bien vous entendez peut-être quelques échos du jeu des chaises musicales. Nous avons 4 ou 5 invités qui nous quittent. Et puis nous en avons 1, 2, 3, 4 autres qui se présentent. Tiens, d'ailleurs, ça va être vraiment les chaises musicales parce que nous en entendons un cinquième et que il va falloir demander à la dame de lui céder son siège puisque donc il s'agit de Thierry Marignac et que nous recevrons Thierry Marignac pour son roman Fuyard chez Rivage Noir, un roman policier qui se passe en Russie et qui est tout à fait vécu. Nous le recevrons avant Nicolas Tandler, journaliste et syndicaliste, avant Arnaud de Villoutray pour la réunion des royalistes à Villepreux. Mais nous le recevrons après le docteur Dor. Bonsoir, docteur Dor. Alors, est-ce que les murailles de Jéricho vont s'écrouler?
Ah, alors là, ça c'est le secret, évidemment, dont je ne veux rien vous dévoiler parce que je n'en connais rien, évidemment. Mais enfin, c'est vrai qu'à Jéricho, il s'est passé il y a 3000 ans, ou même d'avant, enfin oui, oh oui plus de 3000 ans. Alors, on ne sait pas. Il faut que je vous dise un peu comment ça s'est passé la dernière fois. Nous irons donc rue Cadet le vendredi prochain, dans 48 heures, à 19h, comme d'habitude. Et la dernière fois, on présentait, je donnais des tracts, et à la sortie du métro, un homme s'est présenté, d'allure un peu sombre, il a pris un tract, et puis alors il avait préparé ça, je pense, il a posé un gros crachat sur le tract, et puis il me l'a rendu. Et alors nous étions un peu surpris.
Nous parlions d'une société française apaisée tout à l'heure.
Oui, alors, non mais vous savez, évidemment nous n'étions pas fâchés, parce que quelquefois on nous dit, mais monsieur, là ce que vous faites, vous comprenez, personne ne s'y intéresse, personne n'en parle, et vous voyez, donc les francs-maçons, tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors là, je pense que tout le monde n'est pas absolument indifférent à ce qui se passe à le recadrer ce jour-là. Et puis alors juste après, il y a une dame assez bien mise, qui avait des lunettes, une cinquantaine d'années à peu près, et qui dit, moi je suis, elle s'est présentée, je suis catholique pratiquante, mais ce que vous faites, non, ça je n'approuve pas du tout, mais pas du tout, vous avez de la haine.
Oh, alors là, ça c'est grave pour un chrétien.
Alors ben oui, alors madame, écoutez, je ne sais pas comment vous dire, mais je crois que nous avons la haine. Enfin, je crois que tout chrétien doit avoir la haine du mal. Alors, il est certain que personne n'incarne le mal, à part le diable peut-être lui-même. Mais une personne, c'est pas possible. Donc, je fais que comme j'ai pu, que nous aimons les francs-maçons, mais pas la maçonnerie. J'ai même les aimer que de leur dire qu'on ne peut pas accepter une chose pareille, qui est une chose diabolique. Et je dirais, on les aime en disant la vérité et en priant pour eux. Et puis nous avons ajouté, bien sûr, ce qui est sur le tract, c'est que non seulement nous prions pour la conversion des francs-maçons, mais nous prions aussi pour la nôtre, pour rester dans le droit chemin. Parce qu'on peut errer, nous aussi, effectivement, tomber dans des travers épouvantables, peut-être même la haine. Mais ça, enfin, et alors c'est amusant parce que, non, vous avez de la haine, la pauvre, elle était... Alors quand elle est partie, elle est assez... Là, on s'est mis à rire quand même, parce qu'elle a dit, oui, je vais prier pour votre conversion et il y a fort à faire. On l'a même remercié, parce qu'au fond, c'est vrai que on aimerait bien être converti complètement, mais enfin, on ne le sera qu'au ciel, disons.
Docteur Dor, je vous découvre des tels talents de reporter que j'ai envie, comme on dit sur les autres radios, j'ai envie de vous demander de faire le reportage de samedi 18 octobre dernier, où je vous ai aperçu devant Notre-Dame des Victoires, oui, à l'occasion de la 13e marche pour la vie. Oui. Alors, nous n'avons pas loupé cette marche.
Oui, oui.
Nous étions plusieurs centaines. Moi, j'avoue que j'ai vendu à la criée le Libre Journal avec un certain succès.
Oui.
J'ai été très bien reçu, très bien accueilli, mais que j'ai pas suivi la marche jusqu'au bout. Alors, par contre, ce que je peux dire avant de vous rendre la parole, c'est que j'ai remarqué que les chrétiens traditionnalistes opposés à l'avortement de cette marche pour la vie avaient belle allure, y compris dans l'immense avenue de l'Opéra, dont ils ont rempli un beau tronçon. Alors, comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à Montmartre?
Écoutez, j'avoue
que... L'accueil des Parisiens en particulier.
Je vais vous dire, j'aime beaucoup cette marche de Renaissance catholique. C'est à sa gloire, c'est à son honneur. Et je trouve qu'elle n'est pas assez suivie, bien entendu. Elle devrait être 10 fois plus suivie. Mais donc très fervente au flambeau, on distribue des tracts au passage, et enfin il règne à la fois une grande liberté et je trouve aussi une espèce de gaieté, on peut dire. Nous n'étions pas moroses, pas du tout. Alors donc ça dure 2 heures à peu près pour monter là-haut. Ce n'est pas un rythme effrayant. Vous savez que la montée, que ça commence à la Trinité, puis après la rue de Clichy, puis après le cimetière Montmartre, puis on passe par derrière par le nord, donc la colline de Montmartre. Et puis alors là, c'est assez curieux, c'est la première fois, enfin pour moi la première fois, il y avait des cris à l'arrivée, mais des cris qui n'étaient pas les nôtres, c'est-à-dire on l'entendait, ça je l'ai bien entendu, cato, facho, assassin. Ça nous a un peu étonné, enfin facho on comprend, parce que ça s'oppose à la liberté des femmes, disons.
Est-ce que c'était la contre-manifestation promise par nos amis de Ralfron?
Oui, alors je veux dire, je crois qu'ils ont signé leur...
Ils n'ont pas pu faire mieux que ça, des cris?
Des cris seulement, mais il y avait de la police. Nous, on était quand même 10 fois plus nombreux qu'eux.
Ils sont en perte de vitesse, ces gens-là, j'ai l'impression.
Je ne sais pas, mais il y avait ni Dieu ni maître. Ça, je dirais donc, ils ont signé pratiquement leur... Ce sont des anarchistes, les malheureux. Alors, ni Dieu ni maître, je ne sais pas si quelqu'un peut vivre sans Dieu ni maître, avec uniquement soi pour maître, je veux dire, ils sont plus... On a prié pour eux, quoi, la vérité aussi. Et puis, à un moment, alors ça, c'était très beau, au-dessus des cris, parce qu'on chantait, et puis il y avait... Eh bien, il y a une musique sacrée de toute beauté, je ne sais pas exactement laquelle, est-ce que c'était... C'était baroque, une musique baroque magnifique. Et c'était céleste. Alors, peut-être ils ont été touchés par ça, je ne sais pas. Enfin, c'est un témoignage qui traverse Paris, en plein cœur de Paris, et c'est donc encore une fois l'honneur de Renaissance catholique de l'organiser.
Alors, revenons à l'avenir, puisque vous organisez, vous, docteur, une 7e prière publique au métro Cadet, qu'on a rénové de fond en comble pour vos beaux yeux.
Oui, alors, comment dire, venez voir au moins la nouvelle station. Il faut qu'on soit nombreux pour la 7e fois. Alors, c'est une chance pour nous aussi, cette marche pour la vie, c'est que donc on a beaucoup d'amis, on a beaucoup distribué de tracts, n'est-ce pas? Des tracts assez durs, hein, parce que on répète les mots, enfin des francs-maçons, le tract est fait en sorte que on explique notre raison de notre conduite, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces deux phrases épouvantables, celle de comment s'appelle-t-il de tout à coup, je ne trouve pas son nom. Peu importe. Mais c'est la vie n'est plus un don de Dieu. Elle est. Oui, c'est Pierre Simon, médecin, gynécologue, 2 fois grand maître de la Grande Loge de France. La phrase est horrible. La vie n'est plus un don de Dieu. Elle est un matériau qui se gère. C'est une phrase que je dois retenir. Et là, s'ils sont pas derrière la culture de mort, je veux bien me pendre, n'est-ce pas? Je veux dire, ils signent leur, quelquefois ils ne signent pas. Mais quelquefois ils signent, parce qu'ils se tiennent très secrets, hein. Vous savez qu'ils ont été condamnés la première fois par in eminenti, n'est-ce pas? Par Clément XII en 1938, c'est donc la première réunion. 1738, c'est ça. Donc in eminenti, c'est-à-dire à la place éminente où je suis, ce que disait donc, puisque les encycliques répètent les premiers mots de la période, n'est-ce pas? Et voilà. Et alors l'autre phrase, c'est celle alors de Dana Boer, encore plus proche de nous, parce que cette phrase est déjà un peu ancienne. Elle est de 1979, celle de Pierre Simon. La phrase alors plus récente est celle d'Dana Boer, elle était du 12 novembre 2002, et qui dit ceci: nous avons œuvré pour la reconnaissance absolue de la recherche scientifique contre les interdits moraux. C'est-à-dire que là, je dirais, c'est sans voile. C'est la culture de mort sans voile. Alors, je dirais, ne pas voir l'évidence, et ne pas lutter contre cette culture de mort. Alors il faut que je vous dise aussi une chose, je le dirai la prochaine fois. Les choses vont aller en s'aggravant, je dirais, parce que nous irons devant le planning familial. Ah. Et ça, je pense que les choses seront plus serrées.
Donc les francs-macs vont s'en tirer avec 7 prières publiques devant leur siège, et voilà. Après ils vont être tranquilles.
Après ils vont être tranquilles, mais ils patronnent le planning familial longtemps, puisque Pierre Simon a été vice-président, je crois, pas dire sottise, il a été vice-président à un moment du planning familial. Ils sont très étoiles, la fameuse frate, la fraternelle du planning, elle est assez étoffée, si vous voulez.
Bon.
Donc je dirais ils sont assez nombreux là-dedans. Ils se reconnaîtront.
Vous pouvez voir que le studio est plein, que nous avons beaucoup d'invités.
C'est vrai. Est-ce que je peux dire encore 2 petites choses?
Oui, vous pouvez dire où et quand.
Ah oui, alors le vendredi, donc c'est dans 48 heures, nous serons métro cadet à 19h devant le à côté du Grand Orient.
Pour une prière publique.
Et donc encore une fois prière de vérité et d'amour, hein, nous n'avons aucune haine, encore une fois, comme c'est triste que des catholiques, même je pense que c'est une catholique libérale ou mal informée, enfin, mais que les catholiques s'informent.
Voilà, catho, facho, assassin, donc les catholiques affichent leur foi toutes les semaines maintenant dans les rues de Paris. Voilà. Il va falloir s'y faire. J'ai vu sur le trajet, d'ailleurs avenue de l'Opéra, j'ai entendu un monsieur qui se grattait le menton en regardant passer des centaines et des centaines catholiques traditionnalistes en disant ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Je pense qu'il voulait dire que ça lui rappelait les manifestations du 1er mai quand c'était la gauche qui tenait le pavé. Ben maintenant, ce sont les catholiques traditionnalistes.
Ce sont les catholiques et qui reviennent, je pense, de plus en plus nombreux. Un petit mot sur la laïcité, puisqu'elle est tellement, on en parle tellement. Hier, j'ai entendu dire ceci, c'est un truc incroyable, que la laïcité était transcendante par rapport aux religions. Alors là, je dirais, c'est tête en bas.
C'est beau. La laïcité transcendante, c'est un concept
alors là,
intéressant.
C'est Clémenceau, rappelez-vous. Rendez à César ce qui est à César, et tout est à César. Et cette laïcité, qu'est-ce qu'elle nous vaut, justement? C'est la culture de mort. La laïcité, elle tue plus de 1000 enfants par jour. Elle marie les homosexuels, n'est-ce pas? Elle, bientôt, l'euthanasie dans les... C'est ça, la laïcité de la République. Alors, je dirais, si la morale n'est pas au-dessus de la loi civile, et vous savez que c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, évidemment, Chirac disait que la loi civile, que la loi morale ne saurait primer la loi civile. Il reprenait, en quelque sorte, les termes même de la radio que j'ai entendu hier à France Inter. La laïcité est transcendante. Alors là, je dirais, c'est tête en bas. Alors,
vous m'obligez à conclure en disant que nous allons revenir dans le libre journal imprimé numéro 305, donc sur les sorties de M. Chirac sur la laïcité et sur l'espèce de compensation qu'essaye d'offrir Mme Chirac en se rendant à Rome avec une mantille sur la tête. Il y a un remarquable éditorial de Serge de Becquet sur la question qui est déjà sous presse. Je vous remercie beaucoup.
Je vous
demande d'être rapide parce qu'il y a des...
Vous allez voir simplement ceci. Nous avons une adoration à Nocturne à Montmartre, justement, la veille, c'est-à-dire donc le jeudi 23 octobre, l'inscription se fait avant vers 20h30, 20h45, la messe est à 22h et l'adoration, l'inscription donc pour l'adoration nocturne, et l'adoration se fait jusqu'à 7h du matin, évidemment une heure ou deux, on ne peut pas passer toute la nuit, mais donc cette veillée de prière précédera notre manifestation.
C'est bien noté.
Merci mille fois.
Merci à vous, docteur Dor. Je me tourne maintenant vers Monsieur Thierry Marignac, qui est plongé dans la lecture de Limonka. À vrai dire, c'est moi qui lui ai remis le journal d'Edouard Limonov entre les mains, peut-être pas pour qu'il nous le traduise, mais pour qu'il nous l'interprète un peu. Alors j'explique pourquoi. C'est que nous avons Radio Courtoisie, le Libre Journal ont été, on peut le dire, en première ligne de la campagne qui a duré 2 ans pour la libération d'Edouard Limonov et qui a triomphé il y a quelques mois. Nous pouvons dire avec une fierté modeste, mais une fierté quand même, que nous sommes pour quelque chose dans la libération d'Edouard Limonov, injustement emprisonné pendant 2 ans, abandonné par le Quai d'Orsay au profit d'un individu comme Zacharias Moussaoui, terroriste avéré aux États-Unis. Et je suis obligé donc de donner à lire et à interpréter Limonka, le journal d'Edouard Limonov que je viens de recevoir par la poste à Thierry Marignac, tout simplement parce que Monsieur Marignac, vous avez vécu plusieurs années en Russie et je crois que vous avez rencontré personnellement Edouard Limonov.
Non, je le connaissais depuis Paris, je le connaissais depuis très très longtemps, je le connaissais depuis 20 ans.
Il a vécu à Paris de 1980, je crois.
1994. Ben écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire sur le journal. Ça me paraît être un espèce de mélange, comme d'habitude, c'est-à-dire de revendications politiques qui sont assez difficiles à comprendre si on n'est pas russe.
Le national-bolchevisme est difficile à comprendre pour les non-russes, mais même les Russes peut-être.
Je crois, oui, aussi, mais parce que c'est une espèce de composite culturel qui mélange beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a de plus intéressant, je dirais, c'est ce dynamisme qu'il caractérise. C'est le dynamisme culturel, le fait qu'effectivement, les jeunes qui sont là, ils écrivent, ils jouent de la musique, ils sont, c'est pas du tout des extrémistes. c'est pas uniquement des extrémistes, c'est aussi des jeunes qui jettent leur gourme, quoi. Et ça, c'est bien, c'est une nouvelle génération. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. D'ailleurs, moi, je préfère dans ce journal les pages culturelles, c'est ce qu'il y a de plus drôle.
En tout cas, vous avez l'impression que Limonov est en bonne santé quand vous feuilletez son journal et que nous n'allons pas devoir recréer un autre comité de libération trop prochainement.
On dirait qu'il a pris des bonnes résolutions et qu'il va se tenir tranquille.
Acceptons-en l'augure. Alors, parlez-moi un petit peu avant que nous ne parlions de vos, pendant que je vous tiens, avant que nous ne parlions de votre remarquable roman Fuyère chez Rivage Noir. Parlez-moi un peu de Monsieur Maurice Druon qui publie une tribune plutôt russophile, ce qui est rare et surprenant dans Le Figaro il y a quelques jours. Quelle est votre impression?
Bon, déjà, je voudrais dire que Maurice Druon, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais bon, il fait un article. L'intérêt, c'est que c'est un monsieur éduqué qui sait écrire, qui écrit bien, tout ça. Un monsieur de l'académie, quoi. Donc, il sait le faire. Il écrit une espèce d'article qui résume un peu. Qui résume un peu la russophilie.
Mais il rappelle que la Russie s'est rangée aux côtés de la France dans l'affaire irakienne.
Oui.
Il rappelle que la presse est libre là-bas, même si la télévision est sous le contrôle de l'État de plus en plus. Et il rapporte ce mot très amusant quand même de Poutine qui dit comment est-ce que je pourrais supprimer la liberté de la presse en Russie puisqu'elle n'y a jamais existé.
Oui, ça c'est quand même effectivement c'est ce qu'il y a de plus drôle dans son papier.
Je suis bien tombé là. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça ne vous paraît pas bon signe qu'au milieu de ce déferlement, moi, dans le magazine Elle, l'autre jour, je me suis tapé 3 pages de calomnie et de saleté contre le rétablissement de l'ordre, la pacification en Tchétchénie. Ça ne vous paraît pas rassurant que, de temps en temps, quelqu'un, un académicien dans le Figaro, commette un article russophile? C'est quand même une tradition française que la russophilie, l'alliance russe a été l'alpha et l'oméga de notre diplomatie pendant longtemps. Ça ne vous paraît pas rassurant, vous qui... être quasiment, c'est l'impression que donne votre roman, un Français russifié, ça ne vous met pas du baume au cœur?
Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion sur les articles de Maurice Druon.
On va arrêter de vous torturer alors. Et puis on va comprendre que vous avez plutôt envie de parler de votre roman Fuyard.
Non, il y a une seule chose. Il y a quelque chose que je peux quand même vous répondre. Disons, c'est que la Tchétchénie, tout à l'heure, il était question d'Israël et de la Palestine. Et puis aujourd'hui, il y a eu un accord sur l'Irlande du Nord. C'est toujours ce genre de bourbier inextricable où il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement et il est très difficile d'identifier les causes réelles parce qu'elles sont très anciennes et très compliquées et que c'est très facile effectivement de prendre des postures quand on est loin et quand on est informé uniquement par la télévision puisque quand on est sur place c'est toujours différent.
Bon, on est sur place. Bon, vous faites bien de le dire, puisque je le rappelle, vous avez séjourné non seulement en Russie, mais pas dans les palaces, mais dans la Russie profonde pendant des années et des années, et que c'est de là, c'est de ce séjour, de ces années, que vient ce roman policier Fuyard. Aux éditions Rivage Noir. Je vous fais une parenthèse, si vous permettez. Je suis ému d'avoir ce volume en main parce que c'est le numéro 482 et que je possède le numéro 2 de cette collection. Vous savez de quoi je parle? C'est Charles Williams, La fille des collines. Donc il y a des très bons livres dans cette collection Rivage Noir. Donc vous venez de faire paraître le numéro 482 et il s'agit donc de l'enquête d'un journaliste français. Alors, c'est comme une histoire drôle, hein. Il y a un Français, il y a un Russe et il y a un Américain, 3 journalistes, qui, dans une petite ville à 300 km de Moscou, mènent l'enquête sur un tueur en série.
Oui, c'est un tueur en série qui est sous les verrous, déjà. Et en fait, ils enquêtent pour savoir quelles étaient ses protections, parce que ce tueur a été arrêté une première fois, puis relâché. C'est une tradition très très tsariste. Et, et donc, toute l'enquête est le prétexte à découvrir cette espèce de vie très particulière de la province russe, où ou peu de choses finalement ont changé depuis plusieurs siècles.
C'est l'impression, c'est une des impressions qu'on retire de votre roman. On a l'impression que le réviseur va surgir d'une minute à l'autre pour non pas remettre de l'ordre, mais ajouter encore au désordre. Ou finalement, peut-être que le réviseur, il a trois têtes et que ce sont ces trois journalistes qui, plus par maladresse qu'autre chose, font surgir toutes ces espèces de cafards qui circulent dans les derrière les meubles de la bureaucratie, de l'éternelle bureaucratie russe. C'est votre impression, Thierry Marignac, après des années de séjour là-bas, la bureaucratie, comme la liberté de la presse dont Poutine nous parlait tout à l'heure, la bureaucratie ne sera jamais amendée?
Je sais pas, c'est un petit peu, ça me dépasse un petit peu mes compétences, mais effectivement, elle a une fondation tellement un socle tellement solide dans l'administration que
et dans la mentalité russe
et dans la mentalité aussi, et tout le monde participe plus ou moins à cette bureaucratie parce que c'est comme partout, les gens composent avec ce qu'il y a, et d'autre part, ça a des côtés comment dire, ce que j'ai cherché à dire aussi, c'est que ça a des côtés très très drôles. Il y a un côté gogolesque, comme disaient mes amis américains.
Gogol est l'auteur du Révisor.
Il y a un côté gogolesque et qui est toujours là et dont d'ailleurs les Russes s'amusent même très volontiers.
Ils se hâtent d'en rire peut-être, de peur d'être obligés d'en pleurer.
Ouais, mais les choses sont jamais aussi simples que ça. C'est-à-dire effectivement, on a toujours, on parle toujours de la Russie avec un air lourd, un regard solennel, et puis de la littérature russe. Et tout de suite, on a Dostoïevski et Gogol derrière soi, etc. Je crois que les choses sont plus simples que ça quand on est à l'intérieur, quand on est à l'intérieur du pays. Les gens s'amusent aussi avec ce qu'il y a, même s'il n'y a pas grand-chose, ils s'amusent quand même. Ils souffrent et ils s'amusent en même temps. J'ai une de mes amis qui a émigré en France tout de même et qui dit la Russie c'est pas un endroit où on est heureux mais c'est un endroit où on peut avoir des moments d'euphorie et d'extase absolument fabuleux.
Ben, on peut en s'en faire une idée en fréquentant quelques-uns des bons restos russes assez rares à Paris.
C'est un peu cher.
Oui, un peu cher, oui, mais enfin. Bon, alors achetez une bouteille de vodka et rentrez chez vous
et des cornichons et rassemblez trois copains. Oui.
Voilà. Oui, c'est bon. Alors, votre roman Thierry Marignac, je le rappelle, s'appelle Fuyard. C'est donc chez Rivage Noir, ça vaut 7,95 € seulement. Ça fait quand même plus de 260 pages. Et puis, on a vraiment un tableau, c'est ça qui est remarquable, et c'est pour ça que nous avons souhaité vous recevoir, de même que nous vous avons parlé déjà par téléphone il y a quelques semaines, alors que vous signiez ce livre à la librairie Le Divan dans le 15e, avec un certain succès. Je me souviens qu'il y avait un brouhaha, que les gens n'étaient pas contents, qu'on oui, non, vous arrache à leur attention.
Les gens sont gentils. Ouais. dans ces cas-là, ils viennent.
Je suis en train de vous demander sournoisement, donc si ouais. le livre marche bien, si vous avez un peu de presse, si vous êtes au courant de vos ventes, si vous avez des retours des lecteurs.
Je suis pas au courant des ventes parce qu'il est un peu tôt, c'est à Noël que ça se passe, la mécanique de la diffusion fonctionne comme ça. J'ai eu un papier dans le journal russe de Paris qui s'appelle Ruskoye Myslo, qui était un papier très favorable.
La pensée russe,
oui, excusez-moi. Je dois dire que c'était quelque chose de très important pour moi, parce que évidemment l'opinion des Russes m'importait énormément. J'étais un peu sur des charbons ardents.
Et donc l'article est favorable et l'opinion générale des Russes est favorable, celle des Français aussi.
Semble-t-il, j'ai des bonnes réactions de lecteurs. Il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des emails, etc. C'est très agréable. Apparemment, et tout le monde a compris l'idée de faire un voyage de l'intérieur. La fiction permet ça. C'est ça qui est fabuleux.
Alors je veux le souligner une dernière fois, mais le souligner en gras, d'autant que je m'exprime aussi pour Serge de Beketch. Et là, c'est le moment où je regrette le plus son absence, parce qu'on a parlé de votre livre hier. Il m'a dit c'est remarquablement écrit. Paris. C'est un roman d'une grande qualité. Et j'avoue que, bon, moi, mon plan, c'était que ce soit Serge qui vous interviewe. Il l'aurait fait beaucoup mieux que moi. Il aurait été certainement plus convaincant. Moi, je voudrais convaincre donc les gens de lire ce roman policier, cette description d'une petite ville russe, criminelle et bureaucratique, mais aussi, comme vous le disiez, joyeuse, folle, comme le sont tous les Russes. Donc ce roman qui s'appelle Fuyard, qui est signé de Thierry Marignac aux éditions Rivage Noir et qui coûte seulement 7,95 €. Alors nous allons conclure cette séquence russe avec... nous n'allons pas la conclure. Écoutez, Victoria, quand vous me tapez sur la main, je me doute que vous voulez me dire quelque chose.
Mais je voudrais vous lire un petit message. Si
devinez
vous
quoi. Alors nous ne concluons pas, nous nous interrompons pour un message.
C'est un message quasiment personnel. Une auditrice souhaiterait savoir si M. Thierry Marignac a un lien de parenté avec un commissaire divisionnaire, M. Armand Marignac.
Pas que je sache.
Donc, il y a plus d'un an qui s'appelle Martin. C'était très intéressant. Merci Victoria. Et donc nous allons conclure avec un peu de musique douce, non un peu de musique dure en fait, puisque les éditions de Janus, que je salue bien bas, parce que c'est une toute petite maison d'édition qui doit publier 4 ou 5 ouvrages par an et qui a eu le courage, contrairement à beaucoup que je ne nommerai pas, qui sont défilés, qui sont dégonflés lamentablement, cette petite maison d'édition a pris le risque de soutenir publiquement la campagne pour la libération d'Edouard Limonov. Et maintenant, nouvel acte de courage. Tout le monde sait que c'est un suicide pour un éditeur que de publier de la poésie. Et non seulement elle publie de la poésie, mais elle publie de la poésie bilingue, à savoir les ballades du Brassens russe, Vladimir Vysotsky, dont tout le monde se souvient plus ou moins qu'il a été le compagnon de la veuve Schwarzenberg, qui s'appelait Marina Vladi à l'époque, mais dont les Français savent rarement que c'était le Brassens russe, que c'était un poète exceptionnel. Oui. Donc je salue les éditions de Janus, qui publie donc ces ballades de Vysotsky au prix de 23 €. Ça fait quand même 444 pages puisque c'est bilingue, hein, ça fait du volume. C'est traduit par Michel et Robert Bedin. Je donne le numéro d'ISBN pour les auditeurs qui ont des libraires paresseux ou de mauvaise foi. Numéro d'ISBN 2-912668-14-X. Et donc, nous allons écouter dans quelques instants une chanson de Vysotsky, le Brassens russe, qui s'appelle Le vol arrêté. Auparavant, j'indique que les auditeurs, il y en aura beaucoup à qui ça va plaire, pourront retrouver Vysotsky sur France Culture le 28 octobre de 20h30 à 21h. Plus longuement, à l'entrepôt 7 rue de Pressensé à Paris 14e le 4 novembre à 19h et également sur RFI Radio-Canada, mais nous n'avons pas encore les dates. Voilà maintenant Vladimir Vysotsky, Le vol arrêté. 4 minutes.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой нелады, нелады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее, не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор.
из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин и ту, которая одна. Недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, дают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не то. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его телец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли?
Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Vladimir Vysotsky, c'était Vladimir Vysotsky pendant 4 minutes. Madonna a miaulé pendant 3 heures sur toutes les autres radios. Donc je pense que Radio Courtoisie a bien fait de diffuser cette exclusivité pendant 4 minutes. Alors, ne téléphonez pas, épargnez nos téléphonistes, nos standardistes bénévoles. Je vous donne les références du disque tout de suite, sans pouvoir vous garantir que vous pourrez vous le procurer. Je n'en sais absolument rien. À vrai dire, ce sont les éditions de Janus qui publient les ballades de Vysotsky qui m'ont prêté ce disque. Je vous en donne les références. Donc, Vladimir Vysotsky, Le Chant du Monde, distribué par Harmonia Mundi, et la référence, c'est LDX 274-762. Alors, ma chère Victoria, évidemment, les messages continuent à arriver. Je remercie les auditeurs qui trouvent assez d'indulgence pour ma prestation, puisque je remplace, je le rappelle à ceux qui prennent en cours de route, je remplace au pied levé Serge de Beketch, qui est très fatigué, disons. Bon, il faut quand même qu'il se rétablisse, vous êtes d'accord avec moi, hein?
Tout à fait. Ça y est, je l'ai dit, tout à fait. Mon Dieu, c'est... Bon, je ne dis pas les gages.
Appelez-moi Patrick, restons simples.
Alors, une auditrice veut dire au docteur Dor combien elle l'admire dans son combat, qui est le seul combat qui compte actuellement. Et elle veut le soutenir. N'oubliez pas, donc, de donner ses coordonnées. Docteur, donnez-nous vos coordonnées.
Écoutez, cette dame est charmante, alors très volontiers, d'autant plus que c'est vrai qu'on a, de grands, je n'ai pas de soucis, mais vraiment, comme on doit beaucoup à l'imprimerie, on imprime beaucoup d'autocollants qui marchent très bien, qui sont très demandés, des affiches, tout ça. Si bien c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'argent, ça c'est vrai. Et je remercie très vivement donc cette dame de nous encourager. Et voici donc deux adresses, 11 rue Tronchet, SOS tout petit, 11 rue Tronchet dans le 8e arrondissement, où 3 bis rue Rosa Bonheur.
Non, un seul à la fenêtre. Ah, c'est répétez. SOS tout petit.
Alors, SOS tout petit, 11 rue Tronchet, 75-008, Paris.
Et si vous, on peut pas vous téléphoner, mais si on veut vous envoyer un chèque.
Alors,
si on veut vous envoyer un chèque, on met quel intitulé? SOS tout petit.
SOS tout petit.
Très bien.
SOS tout petit, c'est parfait, avec un S à petit, mais enfin, ça passe quand même.
Très bien. Et puis, un auditeur a tenu à vous signaler que, en arrivant à Montmartre, au moment de la Grande Marche, il a entendu des opposants à la manifestation de Renaissance catholique crier « Jean-Paul II, assassin !» Si tout de même,
c'est quand même le comble, mon Dieu. Où se passent les meurtres, franchement?
Vous êtes trop haineux, qu'est-ce que vous voulez, docteur Dorn?
Non, ça c'est pas la haine, c'est la vérité. Mmh. La vérité est première, l'amour est second. Moi je crois.
Oh, vous êtes l'ami de Socrate, mais vous êtes plus encore l'ami de la vérité, si je vous suis bien.
Je crois que le Dieu est vérité et amour. Et l'amour sans la vérité, c'est rien. J'ai souvent pensé ça. L'amour sans la vérité, c'est rien. Donc je n'aime pas les francs-maçons si je leur dis pas la vérité. Ou les anarchistes, pareil, évidemment.
Il y a un autre message pour le docteur Dor, Victoria?
Non, c'est tout pour le docteur Dor, mais tout. On vous demande de quelle façon peut-on se procurer l'article dont vous avez parlé concernant les pogroms des Arméniens et la victoire des chrétiens contre l'islam.
Ah, alors je n'ai pas été assez clair. C'est un entretien avec le grand reporter du Monde, Jean-Pierre Perroncet-Lugoz. Il a donc publié son article politico, son reportage politico-touristique dans Le Monde au début du mois, et nous publions un entretien avec lui où il s'attache plus particulièrement à décrire la situation des chrétiens dans le Caucase, et ça paraîtra donc dans le numéro en préparation du Libre Journal, le numéro 305. Donc si on veut le commander, le réserver, on envoie ce numéro particulier, on envoie un carnet de timbre en précisant « Je commande, envoyez-moi le numéro 305 avec l'interview de Perroncet-Lugoz, donc à SDB, 4 Place Franz Liszt, 75-010, Paris. » Voilà, encore un petit jeu, non pas de chaise musicale, mais de musique chaisière, puisque il a fallu rétrocéder un disque à la régie, et nous nous tournons enfin, non pas enfin, puisqu'il restera Arnaud de Villoutray ensuite, vers Nicolas Tandler, qui est journaliste, un journaliste bien connu d'ailleurs de nos auditeurs, je pense, et qui vient soutenir donc à notre antenne ce paradoxe, mais est-ce bien un paradoxe, un syndicalisme de droite. Bonsoir Nicolas Tandler.
Bonsoir Patrick Goffman. Un syndicalisme de droite, ce n'est pas une notion pour moi, gauche ou droite. Je pense que le syndicalisme n'est ni de gauche ni de droite. Il a un rôle à jouer. Et comme dans l'histoire, il a été combattu notamment par la Révolution, loi Le Chapelier qui a interdit dans notre pays toute coalition, donc toute activité syndicale, qui a été maintenue très longtemps. Il se situe par la force des choses, le vrai, l'authentique syndicaliste, il se situe par la force des choses contre certains éléments qui sont nés sous l'influence des Lumières, notamment, et donc dans sa profonde structure, j'ai même entendu d'ailleurs des marxistes le reconnaître, il est élitiste, il est hiérarchisé, il est hostile à une certaine vision des choses qu'on pourrait clarifier en reprenant les propos du docteur Dor d'anarchisme par exemple. Alors est-ce que ça se situe vraiment à droite? Je ne crois pas, puisqu'il y a des anarchistes de droite, hein, l'expression est souvent employée, on dit qu'elle est fausse, je n'en suis pas si sûr, et il y a des gens assez sauvages qui voudraient réduire tout syndicalisme à néant.
Ben, ils ne sont pas très loin d'obtenir ce résultat, parce que je viens de lire aujourd'hui même dans la presse que les effectifs du syndicalisme français, qui sont déjà notoirement parmi les plus faibles du syndicalisme européen, sont en chute libre pour toutes les organisations de gauche ou de droite confondues. Alors, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que vous, en supposant que vous soyez vraiment un syndicaliste de droite, est-ce que vous pensez que vous devez vous en réjouir?
Oui, il n'y a ni à s'en réjouir, ni à se lamenter, en ce sens que c'est une constante de notre histoire qui découle de la loi Le Chapelier de 1791, de tout ce qui s'en est suivi, des erreurs diverses qui ont été connues.
Loi antisyndicale, rappelons-le. Hein.
Oui, foncièrement antisyndicale, corporation, syndicalisme. Vous savez très bien que pour discréditer le syndicalisme, on dit c'est du corporatisme, bébé, pas beau, etc. Donc, on voit qui combat le syndicalisme. Alors, dans notre pays, les syndicalistes ont toujours été ultra minoritaires. Il n'existe que deux périodes dans l'histoire nationale, c'est-à-dire 1936 d'une part et 1945 d'autre part, où le syndicalisme a gonflé anormalement sous la pression non pas d'événements réellement sociaux, mais d'événements politiques. Et d'ailleurs, ça a été éphémère, hein, ça a disparu instantanément. Le chiffre de syndicalistes aujourd'hui est le même qu'en 1910, pratiquement, c'est-à-dire il est tout simplement ridicule.
Citons-le, je crois qu'on est à moins de 10%. Quoi,
on est à moins de 10%, on est plus près de 4 à 5%.
Toutes
organisations confondues, y compris dans l'univers patronal.
Et y compris la vôtre, Nicolas Tandler, donc c'est le moment peut-être de découvrir votre étiquette syndicale, puisque vous êtes bel et bien syndicaliste.
Oui, je représente ici le nouveau patronat indépendant, qui, comme le nom l'indique, est une organisation qui a surgi récemment, des ruines d'une autre organisation qui s'appelait le SNPMI, qui avait été créé en 1936, qui représentait les petits industriels, puis qui a évolué sous la pression de certaines circonstances tous azimuts, et qui est décédé, entre guillemets, au début de 2000. Donc c'est une organisation jeune qui a réussi à s'implanter en Poitou-Charentes, ce dont je me félicite, puisque c'était la terre d'un président historique du SNPMI, Gérard Deuil, dont le courage était légendaire. C'est lui qui brisa le tabou du 1er mai. On entendait parler tout à l'heure des défilés du 1er mai, et vous savez qu'aujourd'hui il existe d'autres défilés du 1er mai, et le premier défilé qui brisa le tabou que c'était uniquement réservé au drapeau rouge, ce fut le défilé de Gérard Deuil au début des années 80. Et qui fut suivi par d'autres manifestations qu'il faut qu'aujourd'hui la rue n'ait plus l'exclusivité d'une certaine contestation sociale qui me paraît, et là je me rejoindrai presque la Russie qui était évoquée tout à l'heure, qui me paraît nihiliste par ces manifestations. Parce que dans le syndicalisme de salariés, de même que dans le syndicalisme du grand patronat, le syndicalisme MEDEF, il y a des attitudes suicidaires qui détruisent plus qu'elles ne défendent. À chaque fois que certaines organisations de salariés défendent les entreprises, elles crèvent, elles disparaissent. Et à chaque fois que le grand patronat se penche avec sollicitude sur notre univers de PME, PMI, de libéraux, d'indépendants, on s'aperçoit qu'ils contribuent à leur disparition. On le voit dans certains grands systèmes où des prix sont imposés arbitrairement très bas par le grand patronat aux PME, PMI qui ont le malheur d'être, comme on dit, sous-traitantes, entre guillemets, situation catastrophique. Et on s'aperçoit que notre grand patronat a mué, il s'est transformé en grand patronat financier. Dois-je prononcer des noms? Il existe par exemple un président du MEDEF qui fait uniquement de la finance, qui lorsqu'il dirige une entreprise finit par la liquider, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit sous-traitance automobile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ceci est assez lamentable, il faut réagir. Alors la nature a horreur du vide. Alors là oui, je viens peut-être de montrer le bout de l'oreille, mais je me considère toujours...
Oui, j'allais vous le dire, Nicolas Tandler, vous nous proposez des paradoxes encore plus insoutenables que syndicalisme de droite, puisque bon, vous venez de donner votre étiquette, nouveau patronat indépendant, donc ça fait déjà deux paradoxes de plus insoutenables. D'abord, vous représentez donc un syndicat de patrons, et si c'est le cas, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez espérer en face du CNPF ?
Du devenu MEDEF? Oh bah tout. Le MEDEF représente fort peu de choses en réalité. Il a un pseudopode dans l'univers de la PME-PMI qu'on appelle la CGPME, qui dans de nombreuses régions de ce pays n'existe que sur le papier. Et encore. Donc
vous continuez...
Nous sommes des contestataires du MEDEF. Ça, c'est sûr.
Et vous représentez les PME, PMI, dans la continuité de ce syndicat CNPMI ?
Du SNPMI de la grande époque, pas du SNPMI de la décadence. J'ai assisté à l'agonie. C'était lamentable. Bon, je sais bien que ici on n'aime pas l'euthanasie, je le comprends très bien, je n'aime pas non plus, mais il est regrettable qu'il n'ait que dans sa phase finale, il n'ait pas disparu plus tôt, parce que c'était devenu quelque chose de terrible à voir, la dégénérescence d'une organisation dans laquelle des dizaines et des dizaines de milliers de PME-PMI avaient fondé les plus grands espoirs à la fin des années 70, au début des années 80.
Alors précisément, vous parlez d'espoir, quand on voit ce qui est en train d'arriver aux buralistes, aux marchands de tabac, qui sont quand même plusieurs dizaines de milliers, et qui du jour au lendemain d'un trait de plume sont condamnés, pour la plupart d'entre eux, purement et simplement condamnés, on a l'impression que faute peut-être de syndicalisme, d'un syndicat comme le vôtre, mais qui serait plus puissant, les PME-PMI sont à la merci du gouvernement du jour au lendemain. Est-ce que c'est une fausse impression ?
Alors, malheureusement, vous avez raison à 100%, ce n'est pas une... C'est la triste vérité. En ce qui concerne les buralistes, on peut dire que leur organisation, parce qu'il y a une organisation monolithique qui était suiviste non seulement du MEDEF, ce qui n'était déjà pas bien, mais également des différents pouvoirs qui se succédaient, eh bien, on a marché au suicide de toute une branche professionnelle. J'ai peur qu'il soit très, très, très tard. Néanmoins, ce qui n'était pas du tout prévu, ils se sont mis en grève, ce n'était pas prévu au départ de
c'est la première fois.
Et ils vont défiler à Paris le 24 novembre, je salue. Au moins, il y aura un baroud d'honneur.
Vous avez des adhérents ?
Nous avons certains buralistes, notamment dans l'Est de la France, oui, qui sont adhérents de notre organisation.
Les plus radicaux, forcément, puisqu'ils ont la concurrence donc de l'Allemagne, de l'autre côté de la frontière, que les gens vont acheter leurs cigarettes de l'autre côté de la frontière.
Oui, ils ont la concurrence de la contrebande, c'est vrai, le gouvernement parle de mesures exceptionnelles, de mettre les gens en prison, la répression dans le domaine économique. Elle mène pas très loin, les communistes s'en sont aperçus à leurs dépens, hein, que ce soit au Vietnam ou dans d'autres pays. C'est absolument ridicule. Le gouvernement fait semblant de crier répression, mettons les contrebandiers de cigarettes en prison. C'est absolument ridicule, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais rien empêché en ce qui concerne les délits économiques. Il faut vraiment cogner beaucoup plus fort.
Oui, c'est l'expérience de la prohibition. On connaît le programme Paquet.
Excellent,
hein,
exemple également.
Depuis longtemps.
Voilà.
Nicolas Tandler, il faut vous demander quelles sont vos fonctions au nouveau patron indépendant, si vous êtes venu pour appeler à l'adhésion, où vous en êtes.
Vous avez commencé votre propos par d'intéressantes généralités qu'il fallait rappeler sur le caractère ultra-minoritaire du syndicalisme dans notre pays. Je me suis permis de compléter vos propos en disant que c'était valable du côté du patronat comme du côté des salariés. C'est ultra minoritaire depuis qu'il y a un mouvement syndical dans ce pays.
Alors tout vous est permis, tous les espoirs sont permis.
Tous les espoirs sont permis à condition de travailler. Mon rôle est double, il est celui de secrétaire administratif d'une part et d'autre part de mettre en forme, c'est ce que je faisais d'ailleurs autrefois au SNPMI, la communication, c'est-à-dire les documents qui seront transmis aux médias, qui seront transmis aux adhérents, qui seront transmis aux différentes personnalités qui peuvent être intéressées dans ce pays, doivent être mis en forme. Donc,
c'est vous êtes journaliste de formation, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous ont lu au quotidien. Le français, à National Hebdo, au choc du mois, dans beaucoup d'autres titres patriotiques.
Et j'en suis fier, je ne renie absolument pas ce passé. Pour moi, il est complémentaire de mon engagement syndical. Ceci est indissoluble. À ma connaissance, on ne criminalise pas les organisations de salariés qui ont des dirigeants d'organisations d'extrême gauche à leur tête. Non, ça ne se fait pas. Je penserai à la CGT, je penserai à Sud, je penserai à la CFDT, je pourrais toutes les citer. Toutes les cités sans exception. Alors là, on dit, ils sont indépendants. Nous, on veut faire croire que nous serions en devenir un syndicat extrémiste. Si c'est l'extrémisme dans la défense des revendications de nos adhérents, dans leur survie, car c'est ça dont il s'agit, eh bien, il faut être extrémiste. Allons-y gaiement.
Allons-y. Vous appelez à l'adhésion. Vous appelez. Donc, nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont PME-PMI et qui sont peut-être en train de se demander s'ils ne doivent pas au moins s'informer sur votre organisation.
Oui, ils peuvent s'informer.
Le NPI.
Grâce à vous.
Grâce à vous aussi, grâce au numéro de téléphone, sans doute.
Par exemple, vous avez... adresse, un numéro de téléphone, nouveau patronat indépendant, 99-103 rue de Sèvres. Paris 6e, c'est uniquement la
ville de France. Vous avez quatre immeubles,
non, si non, je comprends. Non, on ne sera pas d'être.
99,
nous n'avons pas les moyens de monsieur le baron président du MEDEF. Hein, et nous ne faisons pas dans la finance, donc ça signifie ce que ça signifie.
C'est dans quel arrondissement ?
Paris, 6e arrondissement. Notre siège national est en fait, nous l'avons voulu ainsi, en région. C'est-à-dire en Poitou-Charentes, hein, donc à Angoulême, 378 avenue de Navarre, 16 000 Angoulême. Nous l'avons voulu pour éviter que les miasmes du microcosme parisien, la forte pression qui ont le MEDEF et les autorités de ce pays, qui souvent manipulent, savent très bien récupérer, n'ayant pas peur des mots achetés, ne pèsent pas sur nos dirigeants. Donc c'est sciemment que nous avons pris une difficulté supplémentaire, en dehors du fait que nous débutions de mettre à l'abri de la concentration d'ennemis des indépendants, des PME, PMI, des libéraux, des commerçants, dans ce pays, mettre notre organisation pour ses dirigeants à l'abri. Le président national est Olivier Gallet. Je me permets d'en dire un mot. Pour montrer,
allez-y.
Là, très rapidement, la complexité de la situation dans ce pays. Olivier Gallet a été proviseur dans un lycée. Vous voyez, a priori, ça ne prédispose pas à devenir président d'un syndicat de PME-PMI. Un jour, eh bien, il a tourné le dos à un système éducatif qui lui paraissait très contraignant. Il le vivait à Angoulême, mais dans toute la France, c'est la même chose. Et il est devenu indépendant. Il est le patron d'une entreprise qui fabrique des vérandas. Alors, il aurait pu très bien couler des jours paisibles jusqu'à sa retraite.
Et des dalles en béton, d'ailleurs.
Peut-être. Souhaitons que ce soit pour ceux qui détruisent systématiquement le tissu industriel et le tissu aussi des prestataires de services et des commerçants en France. Ce qui veut dire, pour un raccourci très rapide, Olivier Gallet donc s'est engagé avec succès. Il a été le premier à l'automne 2000, après la mort du SNPMI. Donc, il avait suivi le combat, puisque Gérard Deuil, sa patrie, c'était Poitou-Charentes, et j'ai trouvé que c'était un curieux clin d'œil de l'histoire que le syndicat renaisse en Poitou-Charentes, là où il avait été particulièrement illustré. Donc Olivier Gallet a travaillé comme un fou, il s'est heurté immédiatement au MEDEF qui a tenté de le briser par tous les moyens, donc c'est très agité à Angoulême, il y mène un combat permanent. Notre prochain combat national sera de nous présenter au maximum dans les chambres de commerce et d'industrie qui pèsent des milliards. Vous savez que celle de Paris, elle gère l'aéroport de Roissy, elle est quelque part sur les quais de la Seine, bon, etc. C'est par exemple celle de Versailles-Pontoise à 12 000 salariés. Les trois quarts de la formation professionnelle en France sont gérés par les CCI. Il n'est pas normal que ceux qui entretiennent les chambres de commerce et d'industrie par leurs taxes, les PME-PMI, massivement, voient ces chambres de commerce et d'industrie gérées uniquement par des gens délégués par le MEDEF. Donc il faut changer les choses. Vous savez, les problèmes des tribunaux de commerce qui découlent des chambres de commerce et d'industrie, il y a un énorme travail à faire. Olivier Gallet paie de sa personne. Il a commencé par se faire élire délégué de chambres de commerce et d'industrie. Puis il est devenu magistrat prud'homal. Il franchit tous les échelons. Il a essaimé presque aussitôt en Limousin. Nous avons essaimé, il n'y a pas tellement longtemps, en Pacanor, à Avignon, à Orange. Certains vont dresser l'oreille quand je prononce le nom d'une ville maudite. Bon, je n'y peux rien. Il y a des gens, nous avons des élus dans cette ville, au tribunal de Prud'homme. Oui, bon, bah,
les habitants n'ont pas l'air de trouver leur municipalité si maudite que ça, puisqu'ils l'ont réélu au premier tour avec plus de 60% des voix. Et ma foi, c'est cette malédiction, c'est tout le mal que je souhaite à l'Île-de-France, aux Parisiens, aux Versaillais et aux autres. Est-ce qu'on peut maintenant répéter en articulant et en surinant les coordonnées donc du nouveau patronat indépendant?
Je disais donc 99-103, nouveau patronat indépendant 99-103, rue de Sèvres, Paris 6e, et d'autre part, Patrick Goffman m'a demandé des numéros de téléphone, ou un au moins, alors je vais lui dire donc le 01. Je vais vous dire le 01 43 26 96 74. Donc là, il y aura les renseignements. Alors pour l'instant, nous avions des moyens relativement modestes. Nous nous saignons aux quatre veines pour faire avancer les choses. Donc je pense qu'il y aura un organe de liaison mensuel qui voit le jour, je ne le pense pas, je le sais, en novembre. Hein, donc il y aura de la littérature régulière à distribuer aux gens intéressés. Nous avons d'ores et déjà bougé dans la rue, dès les origines, hein, dès alors que nous n'étions qu'une poignée, à l'automne 2000, du côté de Caen, ça a marqué, c'était une révolte de transporteurs à l'époque. Nous avons l'intention de mettre notre nez, par exemple pour les débitants de tabac, vous avez raison de souligner leur révolte. Certains se sont étonnés qu'il n'y ait pas eu d'insurrection sociale cet automne. D'abord, ils ne savent pas qu'en France, en général, ça ne bouge jamais au mois de septembre-octobre. Regardez l'histoire sociale française, vous verrez que ça bouge généralement en novembre-décembre, quand ça commence à bouger à la rentrée. Parce qu'il y a eu les congés payés, il y a eu un certain nombre de problèmes, il y a eu les impôts, après on se réveille. Bon, et c'est valable également pour les petits patrons. Donc, parfois, ils se révoltent quand trop, c'est le cas des débitants. Et j'ai poussé un cri d'horreur quand j'ai vu qu'il était question de les aider, de les subventionner. Non, pas d'accord. Ceux qui sont totalement spoliés doivent être indemnisés, une bonne fois pour toutes. Ils ne sont pas là pour être assistés, pour être sous perfusion. Le régime de l'assistanat est une catastrophe. Pour nous, c'est un problème idéologique, c'est un problème essentiel. Donc nous proposons que ceux qui vraiment vont crever doivent être indemnisés, car ils ont payé pour exercer ce métier, on l'oublie souvent, premièrement, et deuxièmement, nous voyons la ruralité qui crève en France, nous voyons les pouvoirs publics qui foutent le camp à la vitesse accélérée. Pourquoi ce qu'abandonne
la poste ? Les services publics, vous voulez.
Voilà, les services publics désertent. Pourquoi les services postaux qui vont être abandonnés ne seraient pas là pour remplacer ce qui est perdu par la politique des pouvoirs publics pour les débitants de tabac ? Pourquoi ne pas les remplacer par ça ? Automatiquement et je dirais quasi obligatoirement. Pas de charité, pas d'assistanat, des compensations légitimes et jouer un rôle. Parce que dans le problème des débitants de tabac, qui va crever ? Eh bien, ce sont les débitants de tabac des zones rurales, les premiers. Ça va être catastrophique. Et nous avons déjà le problème de la désertification. Nous devons voir les problèmes, non pas uniquement avec nos tripes, mais essayer de les analyser économiquement. Et donc, dans le problème des débitants, nous avons des solutions à proposer.
J'en suis convaincu, je suis obligé de fermer le robinet. Il va falloir vraiment conclure sur ce sujet. Il y a un message.
Cet organe de liaison, vous pouvez donner les références ?
Non, parce qu'il ne paraît pas encore. Par contre, nous allons remercier Nicolas Tandler.
J'ai un message pour lui. Si les syndicalistes sont si minoritaires, comment se fait-il qu'ils mènent la danse dans ce pays, notamment à la SNCF ?
C'est un autre problème. Nous l'aborderons une autre fois. Nous remercions Nicolas Tandler. Nous allons simplement lui demander de répéter sans commentaire les coordonnées. Donc pour les gens qui peuvent vous contacter, vous avez une permanence au téléphone, ils peuvent se rendre à votre adresse, ils peuvent vous téléphoner aux heures de bureau. Alors donc la réponse est oui. On peut contacter le NPI aux coordonnées suivantes.
99-103 rue de Sèvres 75-006 Paris. Et téléphone 01 43 26 96 74 et pour ceux qui insisteraient 06 10 70 30 21. Merci Patrick Hoffmann.
Merci à vous Nicolas Tandler. Nous nous tournons maintenant, c'est notre dernier invité mais non le moindre comme disent les Anglais, vers monsieur Arnaud de Villoutray qui nous parle donc du prochain rendez-vous très œcuménique, je crois, des royalistes à Villepreux, dans les Yvelines, et il faut insister sur ce point avant tout, je crois, sur cette tentative œcuménique, ou dans une famille de pensée qui est morcelée, je crois, en centaines de petites pièces,
tout
de
à
puzzles.
Fait. Tout à fait. C'est une réunion œcuménique, oui, mais nous nous référons, nous avons pensé. L'historique est plus large et plus profond que ça. Nous sommes persuadés que la position de la France, la situation matérielle de la France, la situation sociale de la France, la situation économique, culturelle, est extrêmement dramatique, très 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 mal engagée. La République gouverne mal, mais se défend très bien. Nous pensons que ce morcellement dont, que vous rappelez, qui est exact, de trois, il y a 300 associations royalistes en France, c'est ridicule. Alors que nous savons...
300 recensés, il y en a 300, peut-être
oui,
plus.
Oui, il y en a peut-être plus. Alors que nous savons, depuis le 21 juin 1429, Jeanne d'Arc nous l'a dit, trois jours après la magnifique victoire de Patay, que Jésus-Christ est le vrai roi de France. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Et c'est à lui qu'elle a remis le royaume que le dauphin, qui n'était pas encore Charles VII, lui avait remis à sa demande. Il pouvait rien lui refuser, bien sûr, après la victoire de Patay, après avoir délivré Orléans. Et après être entré en prière, elle lui a dit, voilà, votre royaume, gentil dauphin, je vous le remets parce que Jésus-Christ, vrai roi de France, vous institue son lieutenant sur terre. Notre démarche est la suivante. Nous voulons implorer la miséricorde du vrai roi de France qui nous a mis dans un châtiment mérité il y a plus de deux siècles. Car ce pays est en décadence depuis deux siècles. Il est en déclin depuis deux siècles. Ce déclin se précipite de plus en plus. Tout le monde le voit, tout le monde dit. Il suffit d'écouter n'importe quelle émission de Radio Courtoisie, et pas seulement de Radio Courtoisie, tout le monde le dit. Pour que nous reprenions pied, que nous nous réenracinions dans notre vocation qui a été fixée par Saint-Rémy à Reims. Cette nation a pour mission et pour vocation d'être le bras armé de l'Église. À chaque fois qu'elle y sera fidèle, elle rayonnera et elle sera prospère. À chaque fois qu'elle sera... Elle tournera sa vocation, elle sera durement châtiée.
Et sur
c'est ce
que point,
nous observons, c'est ce que nous observons tous.
Oui, précisément, je vous interromps une seconde pour vous demander ce que vous pensez de ces grandes manœuvres au sommet de l'État, puisque nous voyons d'une part Monsieur Chirac, qui après plus une valse hésitation, hein, après avoir dit le contraire, finit par prononcer de façon très ferme que, suivez bien le raisonnement, la France étant un État laïque, les origines chrétiennes de l'Europe n'ont pas à figurer dans sa prochaine constitution. Personnellement, j'ai du mal à suivre ce raisonnement, puisque le rabbin Heisenberg ou l'ancien ministre socialiste Allègre sont d'un avis contraire, et je pense qu'ils sont beaucoup plus laïcs, en tout cas beaucoup plus éloignés de la chrétienté que M. Chirac. Donc nous avons cette déclaration de M. Chirac contre six pays européens, dont l'Italie et l'Espagne. Je le rappelle en deux mots, il refuse de faire figurer les origines chrétiennes, les racines chrétiennes de l'Europe dans sa constitution, parce que la France est un État laïque, je ne vois pas le rapport. Et d'autre part, le lendemain, nous voyons son Premier ministre et son épouse, baptisée pour la circonstance la présidente, est transportée dans deux Falcons 900, du gouvernement, est logé non pas dans une autre ambassade ni dans nos nombreux locaux à Rome, mais logé à 100 000 euros au prix de 100 000 euros dans un palace de Rome. Nous la voyons, elle et le Premier ministre, se signer spectaculairement sur la place Saint-Pierre de Rome, à l'occasion ou au prétexte peut-être de la béatification de Mère Teresa. Comment, après ce que vous venez de nous dire, comment est-ce que vous appréciez ces gesticulations contradictoire? Est-ce qu'il s'agit de satisfaire la chèvre et le chou, l'électeur musulman et l'électeur chrétien?
Écoutez, ne me demandez pas d'expliquer les incohérences de la République et surtout j'apprécie votre remarque sur Chirac se signant. Chirac étant Premier ministre au moment.
Chirac. Chirac est resté à la maison. Il a envoyé Madame à Rome.
Ah, c'est Madame Chirac.
Avec Raffarin. D'accord, et tous deux se signent solennellement sur la place Saint-Pierre de Rome.
Écoutez, moi, je voudrais répondre à votre question sur la laïcité. On se moque de nous. La France est une nation chrétienne. Elle l'est. Que ça plaise ou non à Monsieur Chirac et à Monsieur devant qui vous allez faire une prière, c'est comme ça. C'est ainsi, elle est née comme ça, et ce sont ses racines, et nous devons les faire respecter nos racines, et il est absolument indécent, que le président de la République française s'oppose à reconnaître un fait aussi public, aussi historique, que la chrétienté. Ça s'appelait la chrétienté, l'Europe, je suis désolé, je sais pas moi qui ai inventé le mot. C'est comme ça, on passe son temps à nier la réalité, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. On en a marre, ça fait plus de deux siècles que ça dure. Alors on veut que ça cesse, et pour que ça cesse, eh bien, fini la chicaïa, les 300, on se réunit, on demande au vrai patron de nous aider. Sans l'aide du ciel, on n'y arrivera pas. Sa situation est tellement grave qu'on n'y arrivera pas. Et la laïcité, c'est une invention de l'Église catholique, c'est le pouvoir administratif est évidemment à César. Bien sûr, l'Église n'a pas à se mêler de prendre les mesures administratives, les édits. Quelle prétention d'appeler ça des lois ? Quelle prétention ! Les lois, c'est le décalogue, c'est des choses immuables. Mais et pour organiser la vie en société, suivant les principes du décalogue. Et la laïcité, c'est de séparer les pouvoirs, étant entendu que le pouvoir politique est évidemment dépendant et obéit au pouvoir de Jésus-Christ. Point final. C'est ça la laïcité, c'est pas autre chose.
Est-ce que je pourrais citer la phrase du père Hasman?
Docteur Dor, je vous en prie.
Oui, c'est celle-ci, tout simplement. C'est une façon assez drôle. Il dit ceci, la politique est à César. C'est très juste, la médecine est au médecin. La politique est à César, mais tout est à Dieu, même César, même la politique.
Tout à fait. C'est ça la laïcité.
Je crois que c'est ça la vraie définition.
Voilà.
Y compris le César laïque. Alors, merci docteur Dor. Arnaud de Villoutrey, je voulais vous demander, vous invoquiez à l'instant une intervention divine. Alors, au risque de me rendre désagréable et de vous mettre en colère une fois de plus comme monsieur Chirac vient de le faire, je suis obligé de vous demander s'il ne faut pas une intervention divine pour ne serait-ce que rapprocher, ne serait-ce que le temps du week-end dont vous allez nous donner les dates tout à l'heure. C'est 300, disiez-vous vous-même, et peut-être plus, éclat, on peut parler d'éclat, d'organisation groupusculaire, d'organisation royaliste groupusculaire. Un dernier mot, moi j'ai d'excellents amis, vous savez qu'il y a des gens dont l'avocat est juif, et qui ont des amis nègres, alors moi j'ai des amis royalistes. Et à chaque fois que je dîne avec eux, et presque à chaque fois, il y en a d'obédiences différentes. Et je m'amuse énormément, je ne vous le cache pas, à suivre leur disputes, qui me rappellent les disputes de trotskistes et d'autres sortes de talmudistes auxquelles j'ai participé dans ma jeunesse, et qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que vraiment, ils ne se comprennent qu'entre eux. Ils disputent de points ridicules. Alors, pensez-vous que vous allez commencer à rapprocher ces groupuscules, ces factions, ces éclats au cours de votre week-end à Villepreux? Et est-ce que l'aide de Dieu interviendra?
Ah ça, j'en suis pas maître de l'aide de Dieu, absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que il faut au moins la demander et il faut surtout la mériter. Maintenant, le rapprochement de ces, vous avez employé le mot d'obédience. Je suis fort surpris. Non, je ne crois pas. Je crois que vous vous trompez d'interlocuteur. Je ne suis pas le docteur Dor qui lui s'adresse aux obédiences, mais pas nous. Bon. Qu'effectivement, qu'il y ait des tendances, ça c'est l'imprégnation de la République depuis deux siècles. Le roi, on l'élit, on le choisit. Pas du tout, le roi on le choisit pas. Le roi, il est désigné par le Jésus-Christ qui est le vrai roi.
Et donc vous êtes légitimiste ?
Et c'est fini, je ne suis rien du tout, je suis...
Ça pour mettre le bazar dans votre week-end.
Vous n'y arriverez pas. Je suis en faveur du roi qui est désigné par le vrai roi. Alors, soit il estime que nous méritons, que nous sommes suffisamment convertis et pour nous aider, parce que nous aurons accepté de nous battre pour cette cause et pas pour une autre, pas pour Pierre-Paul Jacques. Ça. Et à ce moment-là, il nous aidera certainement. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc, puisque la situation de la France à l'époque... Eh bien, on ne savait pas qui était le roi, puisque le roi lui-même se croyait bâtard. On lui avait fait croire ça. Enfin, eh bien, grâce à Jeanne d'Arc et grâce à ses voix, le futur Charles VII a su que c'était lui, il était fils de son père. Donc il a désigné son lieutenant sur terre. Eh bien, nous sommes dans une situation comparable, peut-être même pire d'ailleurs. Et il n'y a pas de raison de désespérer de la miséricorde divine à partir du moment où nous faisons allégeance publiquement, nous nous convertissons, nous regrettons nos fautes. Il n'y a pas de raison. Et ça arrivera. Je vous promets absolument pas que ça va arriver dimanche prochain à Villepreux. J'ai pas dit ça. Mais il faut le demander. Il faut le demander souvent et beaucoup. Et il faut qu'on soit petit à petit, les gens de bonne volonté. Tous les gens à qui je parle de ça me disent oui, c'est vrai. C'est la seule façon de sortir de ces querelles ridicules. Alors, il n'y en a pas d'autres.
Il nous reste encore quelques minutes hein, avant de faire nos annonces, de refaire nos annonces. Oui, Victoria, effectivement, il vous reste 25 minutes.
Non, mais pas de discussion sur le temps. Je vous l'avais écrit au début parce que.
Oui, effectivement, il nous restait 25 minutes, mais vous savez, l'heure, ça change tout le temps. Hein, c'est pour ça que je ne la demande pas.
À chaque fois que quelqu'un prend une émission pour la première fois, c'est toujours la panique à la fin. C'est pourquoi je me suis permis de vous écrire ça. Voilà.
Donc, je vous dis devant tout le monde que j'ai bien lu votre message, il reste 25 minutes, il y a un quart d'heure, mais que l'heure, ça change tout le temps et j'en tiens compte également. Donc, bien qu'il nous reste maintenant, nous sommes d'accord, un peu moins de 10 minutes avant de répéter nos annonces et de laisser l'annonce de fin à la régie. J'invite donc notre ami de Villoutray à aborder le programme et les coordonnées de la réunion dont il nous parle avec tant de passion depuis un moment.
Bah, la passion a été suscitée. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je reconnais qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour la susciter chez moi. Bien. Alors donc le dimanche 26 octobre, c'est-à-dire dans 4 ou 5 jours, nous organisons, France Royaliste organise un rassemblement. C'est un rassemblement et qui... Tout le monde est le bienvenu, absolument tout le monde. Il n'y a aucune exclusive contre personne. À Villepreux, à Grand Maison à Villepreux, pour faire allégeance publiquement, solennellement, au roi de nos rois. Pavons ensemble la route qui mène à Reims, au bout du chemin de Sacre. Donc le programme de la journée. À partir de 10h, nous accueillons les participants. Nous remettons les tickets repas pour ceux qui auront commandé des repas et les retardataires peuvent encore le faire. Il faut se dépêcher, on peut encore le faire ce soir, demain, mais vendredi, ça sera très tard. Donc, à 10h30, messe tridentine, avec un sermon rappelant l'objectif de la journée, consécration des participants au cœur sacré de Jésus, récitation des litanies simplifiées des saints et bienheureux de la Maison Royale de France. À 12h, repas. Ensuite, une conférence sur la vocation de la France de Saint-Rémy à Saint-Pie-X et la suite de nos jours. Environ vers 15h30, il y a une demi-heure de battement, visite de quelques stands, une autre conférence animée par Pierre Maugendre pour un militantisme efficace.
De Renaissance catholique.
De Renaissance catholique, qui nous fait l'honneur de venir nous voir et nous aider. Donc un militantisme efficace, les moyens, les domaines et la concertation. Et la journée doit normalement se terminer vers 17h15. Alors Villepreux se trouve à environ 20 km, 25 km à l'ouest de Paris. Pour y aller venant de Paris, c'est extrêmement simple.
On dépasse Versailles.
Voilà. Alors la semaine dernière, où j'avais eu la chance et l'honneur d'être déjà invité à cette émission, je m'étais un peu embrouillé les pédales dans la description de l'itinéraire. Pour les Parisiens, c'est très très simple. On prend le tunnel de l'autoroute, sortie
le sur tunnel de Saint-Cloud.
Le tunnel de Saint-Cloud, sur la 13, la sortie numéro 2, direction Versailles. Et ensuite, vous enjambez l'autoroute pour aller en direction de Versailles, mais tout de suite, à droite, vous prenez la route numéro 307, direction Saint-Nom-la-Bretèche, Bailly. Au premier feu de Saint-Nom-la-Bretèche, vous tournez à gauche en direction de Villepreux. Et au premier rond-point rencontré dans la campagne, prendre la direction de Villepreux, vieux village et grand maison est indiqué ensuite.
Alors pour ceux qui se perdront immanquablement, disons que Versailles, Villepreux, c'est tout droit et qu'une fois qu'on est à Villepreux,
c'est indiqué.
Une fois qu'on est à Saint-Nom-la-Bretèche, je veux dire, on loupe la sortie de Versailles. Bon, on continue. Saint-Nom-la-Bretèche, oui. Alors on la loupe pas une deuxième fois cette sortie. Et une fois qu'on est à Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux est fléché.
Oui.
Et il faut dire que Villepreux est d'ailleurs un domaine qui a appartenu au domaine royal. Et c'est un domaine magnifique.
Magnifique.
Et si même on n'était qu'à moitié intéressé par votre réunion, il faut saisir l'occasion de visiter au calme cet endroit qui est, je crois, un hôtel où vous pouvez marier votre fille ou votre petite fille de façon très prestigieuse et très agréable.
Tout à fait. C'est une ancienne abbaye qui a fait partie du domaine royal et qui était possession personnelle de deux rois de France, de Louis XV et de Louis XVI. Le parc de Versailles a été amputé après la Révolution, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et maintenant, il est... Mais il a gardé tout son...
Ce n'est pas du martyr du roi que vous riez, monsieur de Villoux, très j'espère.
Pas du tout.
Quand
pas
vous
du
parlez
tout.
D'amputation et que vous riez, non.
Non, absolument.
Pensez à autre
pas.
Chose. Bon, j'espère bien.
Alors, voilà. Donc, pour réserver son repas et pour réserver son bulletin d'inscription, prière, maintenant on ne peut plus écrire, mais on n'a pas le temps, pour une prière de téléphoner... Et même, vous pouvez téléphoner jusqu'à 10h ce soir, au 06 71 02 26 47, je répète, 06 71 02 26 47. Et je compte que nous serons nombreux, ça ne vous engage à rien. Venez, c'est pas cher et ça peut rapporter très gros, parce qu'il faut en sortir.
J'allais vous le dire, Arnaud de Villoutray, nous souhaitons plein succès donc à votre manifestation. Alors, de nouveau, d'orechef, je remercie le docteur Dor, je remercie Nicolas Tandler et je remercie Victoria qui va nous envoyer dans les... 7 minutes qui restent, une rafale de messages qu'on a déjà entendus, mais qu'on va répéter.
Vous voulez vraiment que je répète tout? Eh bien, avant, pour vous contrarier, je voulais vous dire le titre d'un livre dont vous avez parlé tout à l'heure, le livre de René Marchand, qui s'appelle « La France en danger d'islam ». Aux éditions... Non, je ne sais pas. Édition L'Âge d'Homme.
On n'en a pas parlé, mais on aurait dû.
On n'en a pas parlé tout à l'heure. Ah.
Non, on a cité beaucoup de livres pendant cette émission, mais pas celui-là, on a eu tort, mais il y a beaucoup de bons livres.
Quelquefois, je lis les messages et je n'entends pas l'émission. Bon, vous voulez vraiment que je vous refasse toutes les annonces?
Pas les messages, les annonces, oui. Il nous reste 7 minutes, là. 6 minutes, donc on va refaire toutes les annonces. Allez, pendant que vous faites votre tri, je rappelle donc une fois de plus que Roger Olindre attend ses nombreux amis à Neuvy-sur-Barangeon, au château, magnifique château. Il faut absolument le voir. D'autant que c'est un ancien petit séminaire. C'est très particulier, très intéressant. Il faut voir ça au moins une fois. Donc, Roger Olindre attend ses amis à Neuvy-sur-Barangeon, à côté de Vierzon et de Bourges, samedi prochain 25 octobre, à partir de 10h, 15 euros pour un méchoui avec du vin à volonté. Il me semble que bon, c'est quand même intéressant et sympathique. CNC 01 40 59 07 66 à vous, Victoria.
Dîner débat, Louis-Ferdinand Céline et Robert Brasillac avec Pascal Junot, président des Amis de Robert Brasillac, et Marc Laudeloup, éditeur du bulletin célinien, à l'occasion de la parution du livre de Henri Poulain entre Céline et Brasillac. Ce vendredi 24 octobre, à 20h, au restaurant Le Chalet de Neuilly, 14 rue du Commandant Pilot, à Neuilly-sur-Seine. Métro Porte-Maillot, prix 30 euros. Réservation, envoyez un chèque à l'ordre des ARB à Pierre Souville, 2 rue Pierre Curie, 78 000 Versailles. Et pour tout renseignement, téléphone fax 01 39 51 08 47. Le Salon France Jeunesse, salon du livre et des produits de jeunesse avec des animations, se déroulera le samedi 8 novembre de 14h à 19h et le dimanche 9 novembre de 11h à 18h à l'espace Saint-Bernard, 10 rue du Petit Musque, Paris 4e. Métro Sully-Morland ou Bastille. Renseignements 01 69 78 30 23. Deuxième fête de l'identité et des libertés, le samedi 15 novembre, Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie à Versailles. De 10h, ouverture, islamisme et communautarisme, 12h30, dédicace dans les stands et animation musicale, 14h, réalité européenne, débat animé par Fabrice Robert, 15h, géopolitique et stratégie avec Pierre Vial et Jean-Gilles Maliarakis, débat animé par Serge de Bekech. Remettez-vous bien, Serge. 16h, les droits de l'homme, fin de l'histoire, question, avec Pierre Chassard, l'abbé de Tannouarn et Pierre de Meuse, débat animé par Éric Delcroix. 17h30, projection d'un film documentaire suivi d'un débat, Le combat de demain, avec l'équipe de Jeunes Résistances, Devenir, Réfléchir et Agir et François-Xavier Sidoz. 21h, soirée musicale avec la participation de In Memoriam et de Nouvelles Destinées.
On vous relaye le temps que M. de Villoutray répète son annonce.
Oui, et surtout de donner des informations que j'ai commis l'erreur de ne pas donner.
Rapidement,
tout à l'heure.
Il nous reste 2 minutes.
Hein. Donc, l'entrée est à 10 euros dans ce domaine prestigieux. 15 euros pour les couples, gratuité pour les enfants. Il faut que les enfants viennent. Le repas...
Il y a des grands jardins où ils peuvent s'y
mettre. Oui, bien sûr. Le repas, 16 euros, boissons et vins comprises. Voilà, c'est... Donc, je répète, téléphonez au 06 71 02 26 47.
Merci, merci beaucoup. Victoria, il vous reste combien de messages là? Maintenant, ça y est, il nous reste 2 minutes, donc oui, il faut abréger, d'autant que je voudrais dire un mot, moi, avant de partir.
Il y en a une qui est un petit peu incomplète, c'est Monsieur Luit, tout à l'heure, qu'on a eu au téléphone.
Oui, qui organise un colloque sur l'Europe.
Colloque sur l'Europe. Voilà. Donc, le numéro, c'est 06 86 37 25 63. Et ça se passera le samedi 25 octobre de 9h à 16h30 au Cercle Interallié, 33 Faubourg Saint-Honoré.
Voilà. Alors, vous en restez là, Victoria. Pour ma part, avant de saluer les auditeurs, je vais leur répéter ce qui, moi, me tient le plus à cœur. C'est que nous allons imprimer la semaine prochaine le numéro 305 du Libre Journal et que, entre 24 pages entièrement rédactionnelles, on verra tout de même notre divin marquis, le marquis d'Olmeta, l'authentique marquis d'Olmeta, mettre littéralement Stéphane Bern à poil, ce qui s'appelle à poil, un peu mieux que dans Paris Match, et que nous aurons également un entretien avec, sans doute, c'est mon avis, et je le partage, le meilleur grand reporter français qui travaille encore pour Le Monde aujourd'hui, j'ai nommé Jean-Pierre Perroncet-Lugos, qui va nous décrire la situation des chrétiens dans le Caucase, qui n'est aussi, ni aussi bonne ni aussi mauvaise qu'on le pense généralement, au lendemain des élections, entre guillemets, en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan musulman. Donc 2 pages d'interview remarquables. On envoie, pour obtenir ce numéro, un carnet de timbre. On envoie un chèque de 110 euros pour s'abonner 1 an à SDB 4 place Franz Liszt 75010 Paris. Voilà, il me reste 5 secondes pour dire, amis de la résistance, bonsoir, remercier les auditeurs de leur indulgence, ceux en particulier qui ont téléphoné pour exprimer cette indulgence, répéter à Serge que quand je parle de résistance, je pense à la résistance au virus, aux microbes. Serge, malgré toute leur indulgence, les auditeurs trouvent que tu manques dans cette émission.
C'était mieux que de l'indulgence, c'était des félicitations. Allons, ne soyez pas modestes.
Merci, oui, la modestie est mon principal défaut, mais je vais tâcher de ma principale qualité aussi, je vais tâcher de m'en corriger. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et à bientôt, et comme le dirait Serge, je le répète sans en penser un mot, tant mieux, tant pis pour moi, j'irai en enfer, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Patrick Goffman, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal.